Et Maxime ?
Ouais, Soli ?
C'est la Revue Tech ?
La Revue Tech ?
C'est tous les deuxièmes jeudis du mois de 19h à 20h30.
Et ça parle d'actu tech en plus !
Et oui, c'est parti ! Bienvenue dans la Revue Tech. Salut Maxime, comment vas-tu ce soir ?
Eh bien ça va super Sony, et toi ?
Eh bien ça va très bien, quel est le programme de ce soir ?
Alors ce soir Sony, on va parler du retour sur le keynote de Apple, on va également parler du plus gros changement du PC depuis 40 ans, et on va également parler des meilleurs accessoires pour la Switch 2.
Et pour nos grands formats, à partir de 20h, je vais vous donner mes astuces pour passer moins de temps sur vos téléphones, et oui. Et Maxime, nous allons, tu vas parler que l'IA va traduire en fait
et oui.
Les animaux, c'est dingue
oui,
ça.
Ah oui, spoil pas trop, on en parle juste après dans les grands formats.
Et ça, tout ça c'est maintenant
dans la Revue Tech.
19h, 20h30, c'est la Revue Tech sur Graffiti.
Alors Maxime, tu as regardé du coup le Google I/O,
et oui, c'est et oui, ça Sony. J'ai été très 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 attentif. Donc on va parler de Google, hein, que vous connaissez sûrement, je pense, et plus précisément de son grand rendez-vous annuel, la Google I/O. Et cette année, il y a un mot qui revient partout encore plus que les autres. Bon, vous en doutez, hein, c'est l'intelligence artificielle.
Oh,
encore,
je connais pas ça.
Comme de par hasard. Google est plus seulement en train de montrer des nouveautés, il est en train de dessiner sa vision de l'informatique pour les prochaines années. Donc c'est très intéressant. D'abord, faut bien comprendre le contexte, hein. Qu'est-ce que c'est le Google I/O ? C'est le plus grand rendez-vous où Google nous explique en fait dans quelle direction ils ont envie de partir et ils ont envie d'amener leurs produits. Et cette année, le message est très clair, Google veut passer d'une IA qui répond à une IA qui agit. Donc okay. Là, c'est vraiment, ils veulent plus que ce soit une IA basique, là ils veulent que l'IA elle y aille quoi. Que l'IA y aille.
Oui, c'est dur à dire ça.
Que l'IA y aille. Voilà, ouais, ça y va quoi. Et c'est ce qu'ils appellent en fait l'ère argentique. Ça te parle pas Sony ?
Non. Non.
De toute façon, c'est un nouveau mot, je suppose qu'ils ont inventé.
Non, je sais pas.
L'ère argentique. Et en fait, pour eux, ce serait une IA capable d'exécuter des tâches, de préparer des actions, d'orchestrer plusieurs applis pour vous simplifier la vie. En bref, de vraiment avoir un vrai système IA qui se contente plus seulement juste de répondre à nos questions, quoi. Un vrai système derrière. Alors, le premier gros sujet, du coup, c'est Gemini. Gemini qui est l'IA de Google, hein, que vous connaissez sûrement, qui est désormais le cœur de l'écosystème Google. L'entreprise a mis en avant une nouvelle génération de son modèle avec Gemini 3.5 Flash qui est arrivé très récemment et que j'ai eu l'occasion de tester pas mal et qui est vraiment top du top, c'est vraiment incroyable. De toute façon, Gemini, j'arrête pas de le dire pour les trucs basiques, c'est le mieux. Ouais, en plus, il est intégré sur tous les Android Samsung que Sony ne fait plus partie.
Il me fait un sacré regard, Maxime.
Et donc c'est vraiment génial, moi je m'en sers au moins 5 fois par jour.
Et hyper pratique.
Ouais, très très pratique Gemini. Donc cette nouvelle version Flash présentée comme très rapide, pensée pour répondre vite et de manière fluide aux requêtes du quotidien. L'idée c'est plus seulement d'avoir une IA qui sait des choses, mais une IA qui devient la couche centrale de tout. Recherche, productivité, création, mobile et même objets connectés vraiment. On veut que ce soit l'IA un écosystème complet, que ce soit carrément qui gère un écosystème quoi. Et ce qui est frappant, c'est que Google ne parle plus de Gemini comme d'une simple application, mais comme d'un moteur carrément. On le retrouve partout, hein, dans l'assistant, dans la recherche, dans les outils de création, dans les services professionnels, et même dans de nouveaux usages plus autonomes. Google pousse très fort l'idée qu'on ne va plus seulement taper des mots-clés dans une barre de recherche, mais dialoguer avec un système capable de comprendre un objectif, puis de produire une réponse utile ou même une suite d'actions. Donc vraiment, gros glow-up pour Gemini, quoi. Et justement, on va parler maintenant de Google Search parce que c'est probablement l'un des changements les plus symboliques. Google Search, pour la faire courte, c'est la recherche Google via image en fait.
Ok.
Et la recherche du coup de Google pendant des années, c'était cette page blanche. Enfin, on va aussi parler de la recherche de Google, pas que par image, mais aussi quand tu tapes une recherche Google, quoi, classique.
Ok, comment ça fait pour... voilà. Parce que qui recherche sur Google avec l'IA maintenant ?
Bah oui, exactement. Et aujourd'hui, les recherches web classiques sont en train de se faire dépasser par les demandes IA, ouais.
Attends, on en avait parlé en plus, les gens qui recherchent sur TikTok aussi.
Ah oui, c'est vrai, bah oui, c'était un sujet ça.
Et c'était la fin des moteurs de recherche.
Oui, c'est ça, on en avait parlé dans une ancienne... dans une ancienne émission.
Revue Tech.
Voilà. Et donc aujourd'hui, la recherche web de Google, pendant des années, c'était vraiment une page blanche, juste avec une boîte de recherche et une liste de liens bleus, pas beau. Là, Google, ils veulent vraiment aller plus loin, davantage de réponses générées par IA, davantage d'interactions et moins de dépendance aux clics classiques vers les sites. Pour l'utilisateur, ça peut être très pratique. Pour le web, ça change tout parce que si Google répond directement, il garde l'attention chez lui plus longtemps. Et oui. Et moi, j'ai déjà commencé à voir ça, par exemple, sur moi, j'utilise comme navigateur Brave. On en avait déjà parlé aussi des meilleurs navigateurs. Et c'est vrai que quand je fais une recherche dans Brave, eh ben, j'ai un petit agent IA qui me fait un résumé avant d'avoir les liens en dessous, tu vois.
Donc c'est qui du coup l'agent IA ?
Alors c'est l'agent IA, c'est l'agent Neo. Je crois que c'est l'agent Brave. Je crois qu'il s'appelle Neo.
Et donc là, tourne en local, non ?
Ah non, ça tourne pas en local. Okay, c'est vraiment c'est l'agent IA de Brave.
Agent secret.
Ouais, voilà. Mais là, Google, ce qu'ils veulent mettre en place, c'est vraiment un agent IA dans ce style-là, mais ça va être Gemini, donc ça va être beaucoup plus avancé. Et donc vraiment, ils vont essayer de changer un petit peu cette interface web qu'on connaît depuis maintenant plusieurs années.
Plus de 90 ans.
Ah ouais, nous Sony, on était les télés déjà là, quoi. Donc, autrement dit, Google ne se contente pas d'améliorer la recherche, il est en train de la recomposer et ça a des conséquences énormes pour les internautes. C'est plus rapide, plus conversationnel, plus intégré pour les éditeurs de sites. C'est un vrai bouleversement parce qu'il risque de recevoir moins de trafic direct si l'utilisateur obtient sa réponse sans quitter Google. Donc c'est très très cool. Autre sujet très commenté, l'Android, même si une partie des annonces ont été dissociées de la conférence principale, Android continue de jouer un rôle central dans la stratégie de Google. Les rumeurs et les aperçus les plus crédibles évoquent Android 17, donc une nouvelle version d'Android avec une nouvelle interface, des fonctionnalités flottantes et tout. Donc ça, je passe rapidement dessus parce qu'on n'a pas eu trop les infos dessus.
Mais ce qui est relou à Google, c'est que maintenant j'ai du mal à les croire parce que depuis, il y a plusieurs conférences où ils nous montrent des démos. Et en fait, finalement, c'est des démos fake et tout. Donc moi,
c'est vrai que c'est à prendre avec des pincettes. Tant que c'est pas arrivé, voilà, c'est vrai que c'est à prendre avec des pincettes.
À chaque fois, j'ai été déçu. Genre, la démo, elle est incroyable. Et pour de vrai, alors.
Attendez, on a juste des mises à jour de bugs.
Ça arrive.
C'est tout.
Bon, après, on en parlera après. Apple et son.
Oui, voilà. Ils sont pas mieux. Ils sont pas mieux.
Mais sur les promesses.
Effectivement, c'est à prendre avec des pincettes, mais en tout cas, ça va arriver, c'est sûr. Et faut aussi qu'on parle du coup des nouvelles briques plus expérimentales comme Spark. Et oui, l'idée est très claire. Au lieu de lancer vous-même plusieurs outils et plusieurs étapes, eh ben l'IA va prendre la main pour orchestrer le travail à votre place. Donc on parle d'ici d'un vrai agent autonome. Donc ce serait plus Gemini mais Spark du coup qui va tourner.
Ça fait espace. Spark. Non ?
Si, un peu. Genre.
Ouais. Mission Spark.
Genre, ouais, ça fait un peu. J'envoie mon IA dans l'espace, quoi.
Ouais.
Spark 2.
Je t'ai perturbé là, désolé.
Ouais, attends. En fait, tu m'as dit, ça fait espace. Je me suis dit, attends, la barre d'espace, qu'est-ce qu'il y a ?
Ah non !
Vraiment trop techos, les mecs.
La barre espace.
La barre espace. Ah non, l'espace, la galaxie. Ah, okay.
Non, mais c'est la revue tech, c'est normal.
Attends. Vraiment le techos pur. Non, mais oui, carrément. C'est vrai que Spark, ça fait un peu ça. On croirait que c'est un truc d'Elon Musk encore, mais non, c'est bien Google. Et donc, du coup, ce serait quand même une IA qui est hébergée côté serveur, donc capable d'agir en arrière-plan sans dépendre de votre machine aussi. Donc, ça, c'est bien, donc voilà, c'est peut-être pour un usage plus pro aussi, mais c'est que ça pose quand même une question, jusqu'où est-ce qu'on est prêt à déléguer à une IA des tâches qui demandent jusque-là de l'attention humaine, tu vois. Genre, à quel point on a besoin de l'IA pour faire des tâches classiques, quoi.
Faire la compta.
Ouais, par exemple, imagine bientôt l'IA va faire la compta, va ouvrir tel et tel logiciel pour faire telle et telle chose.
Mais je fais déjà ma compta avec l'IA, elle m'aide beaucoup, je vais dire mes dépenses, etc. Mensuelles, ça.
Ouais.
Et en gros, elle va me dire, ok, là, t'as temps et tout. En fait, elle calcule trop bien.
Ouais, bon, oui.
Après, faut bien faire attention de pas dire. Des données confidentielles, le
oui,
RIB,
oui,
etc.
Bien sûr. Oui. Et puis il faut quand même relire parce que on sait jamais, il peut y avoir quelques.
Bon, là c'est
erreurs.
Des simples calculs, donc ça va.
Mais oui, bon, donc c'est quand même bien fait. Autre axe très visible, la création. Google ne veut pas seulement dominer la recherche et la productivité, il veut aussi être au centre de la génération d'images, de vidéos, de contenus audio et tout ça. Et on a vraiment eu. Une nouvelle chose, alors c'est toujours Gemini, je crois que ça s'appelle l'IA, mais en gros, vraiment la génération d'images et tout ça est encore plus poussée qu'avant, vraiment c'est un truc de fou. Et on peut même, j'ai vu ça, on peut même générer de l'IA sur une vidéo existante. Par exemple, je prends une vidéo de toi, Sony, là, en train de me regarder comme ça, de me dire, oh, qu'est-ce qu'il me raconte. Et là, je peux lui dire, ok, bah, ajoute-moi des flammes derrière, genre le bâtiment il prend feu, et tu vois, bah, bon, c'est vrai que j'aurais pu prendre un autre exemple parce que c'est pas ouf comme exemple.
Mais... Après, j'ai un exemple si tu veux.
Vas-y.
Non, parce que du coup, moi, j'ai utilisé pour la blague une génération de vidéos IA.
Ouais.
En gros, j'étais dans le jardin avec ma copine, le chien, etc. Et ouais. Fait genre que ma copine fait une blague au chien et il rigole.
Ah oui, bah
bon,
voilà.
Je pense qu'il y a tout mon limpimpon qui est vide à cause de moi avec la génération.
Ouais, c'est clair, il n'y a plus de place pour les autres.
En fait, il y avait un truc qui était perturbant, c'est que la voix de ma copine était très ressemblant. Que j'ai jamais fait écouter, c'était une photo. Ouais, ouais. Et mon rire aussi était un peu ressemblant. Et la voix du chien aussi. Non, il n'y a pas de. Ah non, ça c'est à la fin, la voix du chien. Comprendre le chien.
Alors, donc c'était bizarre. De toute façon, c'est une folie.
Ils sont vraiment dans le futur.
Ouais,
hein.
Ouais, vraiment. Mais donc là, ce ne sera plus à partir d'une photo, ce sera à partir d'une vidéo directement, tu vois. Donc
c'est pour rajouter, faire du montage.
Pour rajouter des effets, ouais, clairement. Ouais, trop clairement. C'est clairement ça.
Donc ça va être le nouveau CapCut.
Ouais, un peu. Après, en vrai. Fais-moi un edit sur Breaking Bad, et puis là, tu vas avoir des édits de Walter White comme ça.
Avec la funk, là.
Ouais, voilà.
La musique préférée de Maxime.
Exactement,
hein.
Moi, j'adore ça. Y a un autre sujet, du coup, sur Google I.O. qui attire beaucoup l'attention, c'est celui des lunettes connectées. Google réinvestit clairement le terrain de la réalité augmentée et de l'affichage intelligent avec des partenariats industriels et design pour rendre ces objets plus crédibles sur le marché. Là encore, la logique est cohérente. Si l'IA devient l'interface principale, alors le bon écran n'est plus seulement le téléphone, ça peut être aussi des lunettes, une oreillette ou alors un dispositif porté au quotidien. Mais bon, faut pas non plus que ça flotte, hein, que ça floppe, pardon. On se souvient, Sony, de
l'espèce
de...
Non,
tu te souviens de la montre qui était censée remplacer les smartphones, et en fait, tu sais, ça te parlait ou ça affichait un écran
Je
sais
plus. Oui.
Et ça avait complètement flop parce que c'était beaucoup moins pratique.
Donc, t'as le pins aussi, tu sais, que tu mettais.
Oui, aussi, ouais.
Qui
ouais.
projette, mais bon, t'as un grand soleil aujourd'hui.
Ça marche pas, quoi. Laisse tomber. Donc, bon, faut pas que ça floppe, mais en tout cas, ils sont en train de vraiment. Accentué sur les lunettes connectées et tout, ils sont.
Ouais, ils veulent concurrencer Facebook, quoi.
Ouais, vraiment.
On peut le dire, hein, les avocats ne sont pas là aujourd'hui.
Non, c'est ça. Ils veulent concurrencer Facebook, là, à fond. Il y a aussi un aspect technique, mais important, la traçabilité des contenus générés par IA. Google a mis en avant des solutions comme SynthID, un système de marquage numérique pour aider à identifier la provenance de certains contenus créés par l'IA. Dans un moment où on s'inquiète, par exemple, de plus en plus pour de fausses images, des arnaques et tout, des faux contenus, c'est vraiment une brique stratégique parce que ça peut montrer que Google veut être à la fois le moteur de la génération et aussi un acteur de vérification parce qu'ils ne veulent pas qu'on crée n'importe quoi pour justement faire des arnaques ou des choses comme ça. Ils veulent aussi vérifier que ce soit pour une bonne chose, quoi. Donc si on résume l'esprit de cette Google I.O., on peut dire en gros que Google pousse trois idées fortes. Premièrement, l'IA devient au centre de tout. Deuxièmement, la recherche web se transforme en assistant conversationnel. Et troisièmement, Google veut étendre cette logique du smartphone jusqu'aux lunettes et aux agents autonomes. La vraie question maintenant, c'est est-ce que les utilisateurs vont adopter cette vision sans réserve? Parce que sur le papier, c'est séduisant. Gagner du temps, automatiser, créer plus vite, chercher autrement, tout ça, c'est très attirant. Mais il y a aussi des inquiétudes sur la vie privée, sur la dépendance à une entreprise par exemple, et puis sur le web lui-même, si les réponses restent de plus en plus dans l'univers Google, qu'est-ce qu'il reste de l'écosystème des sites, des médias, des créateurs, des sources originales, tout ça. En tout cas, une chose est sûre, Google n'avance plus à petits pas, il essaye d'imposer une nouvelle normalité, et cette normalité, c'est un monde où l'IA n'est plus une fonction ajoutée, mais le système nerveux central de vos outils numériques. Bon, en parlant des actus, des keynotes, tout ça, Sony, toi, tu vas nous parler de la keynote d'Apple.
Ouais, moi, je suis parti chez Apple et pas chez Google.
Ah ouais, ouais,
pour changer.
Ouais.
C'est le grand rendez-vous annuel de la tech qui vient de se terminer. Ça s'est passé lundi. C'est la fameuse keynote, la WWDC.
Yeah, is
Apple. Non, là... J'en fais trop.
Du game.
Parce que j'ai payé un mec qui m'apprend l'anglais, l'accent et tout. Donc,
ah ouais, bah il y a encore du taf.
On va voir les prononciations de titres. Hein, vous allez voir, c'est... il va falloir le payer.
On va
plus.
Voir ça.
Non, faut pas voir. Donc bon, cette conférence, la WWDC, c'est une conférence plutôt pour les développeurs en fait.
Ouais.
Donc il fallait pas s'attendre à avoir une annonce d'iPhone et de Mac.
Des folies.
Donc voilà, j'étais pas en train de baver devant ma télé. Devant la keynote, bien sûr, j'y étais pour de vrai. Hein,
Bah, Sony, alors, attends, on vend pas le truc quand même.
Ouais, ouais. Bon, Apple, envoyez-nous des invitations la prochaine fois.
Ouais, de ouf.
On ira ensemble.
Voilà, voilà. Carrément.
Mais avant de parler des nouveautés, cette keynote avait une saveur très particulière, en fait, presque okay. historique. C'était en fait la toute dernière présentation de Tim Cook.
Oh là là,
j'étais
bah oui.
de l'émotion, hein, parce que, et oui, après 15 ans en fait de tête d'Apple, bah, il a ouvert la conférence pour ce qui restera sa dernière en fait, avant de passer officiellement la main à John Ternus en septembre,
oui.
qu'on avait parlé.
Et oui, on en avait parlé dans la dernière émission.
Ouais. C'est ça.
Ouais, du changement de flambeau.
Donc ça y est, là, c'est vraiment là la RH.
C'est officiel.
Enfin, la RH de Tim Cook, elle a dit bon, ben c'est bon, c'est fin de
c'est
contrat.
Bon, on peut te virer.
On envoie tout à France Travail.
Voilà. Tu te débrouilles pour ton prochain taf.
Là, on va croiser Tim Cook avec son conseiller. Bon, alors cette année, pour les 50 ans de la marque, on attendait à du lourd, du très lourd, mais voilà, qui marquait un peu le Apple, quoi.
Ouais.
Et en fait, ils nous ont présenté iOS 27 et Mac OS 27. Baptisé le Golden Gate sur le papier. C'est une keynote historique avec l'intelligence artificielle. Et oui, encore une fois.
Hein.
Mais bon, là, avec Apple, on s'attendait à plus, quoi. Mais comme on va voir, pour nous, les Européens, on va être un peu déçus. Pas de spoil, hein.
Ouais.
Bon, on commence par la star absolue de la soirée. C'était l'annonce qui a occupé la moitié de la présentation. C'était Siri AI.
Ok.
C'est ça?
Ouais.
Nickel.
AI.
En fait, Apple a enfin décidé de reconstruire son assistant de zéro.
Enfin.
Et il était temps parce que, c'est comme j'en parle à chaque fois, le Siri était complètement bête. On se moquait dans le précédent épisode que quand tu lui demandais un minuteur pour les pattes, il faisait une recherche sur la physique quantique avec ChatGPT.
Oui, c'est vrai.
Parce qu'il paniquait.
Ouais, vraiment, pourri.
Donc ça, on espère que ce soit fini.
Il me semblait même qu'il s'était rangé, au final, à utiliser une autre IA. Je ne savais plus.
Non, mais il est fort, hein. Mais oui, parce que cette fois, Apple s'est allié avec Google pour intégrer les modèles Gemini.
J'ai pré-shot.
Non, on est juste très entraînés.
On est complètement
hein.
synchro.
C'est incroyable. Est-ce que tu vas passer sur iPhone, du coup?
Non.
Fin de chronique. Voilà, c'est censé être le jingle à Revutech.
Très bien fait, Sony, en tout cas. Non, mais pas tout de suite.
Non, pas tout de suite. Non, en fait, le résultat, il est assez bluffant parce que Siri a enfin une application dédiée pour retrouver toutes les conversations qu'on a faites avec lui. Il comprend enfin le contexte de vos messages. Ça, c'est trop bien. Alors, moi, je suis content qu'il y ait ça, et sans plus, parce qu'il y a des fois où j'ai pas envie d'avoir l'historique de, par exemple, mon minuteur des pattes.
Bah oui.
Parce que je suis sûr qu'il va me créer une autre conversation. Parce que quand j'avais Gemini là, avec mon Samsung, quand je faisais les minuteurs avec les pattes, là, j'aime bien les pattes. Hein. Panzani, si vous êtes là.
Donc, collab.
Non, pas de collab avec la Revitech. Donc, ça faisait un prompt en fait en plus.
Ouais, d'accord.
Donc, juste pour un minuteur, c'était un peu dommage.
Ouais, c'est vrai.
Donc, j'espère que ça filtrera, du coup, le...
Ouais, c'est vrai. Mais moi, quand je pose une question à Gemini, ok, donne-moi tiens, j'ai acheté un lave-vaisselle il y a pas longtemps. Oh, donne-moi les dimensions d'un lave-vaisselle en moyenne. Ça me crée une requête pour rien, quoi, en fait.
J'espère que tu nous feras une chronique sur les lave-vaisselles connectés. Hein.
Incroyable, mec, je suis heureux. Dis-toi que je l'ai acheté lundi, il s'ouvre tout seul au séchage. À la fin, c'est un truc de fou.
C'est quoi comme marque?
Je sais plus.
Samsung?
Non. Bon. Malheureusement.
On
fera c'est Apple.
La revue Apple. C'est incroyable. Donc, oui, l'équipe de recherche qui m'a regardé. Qu'est-ce que. C'était pas ça la marque? Non, bon, ok. Bon, alors, on va revenir
on
à Siri. Désolé, on était dans
choix.
La revue La Vaisselle. C'était la version électroménager.
Exactement.
On parlera de frigo demain. Donc, bon, revenons à Siri. Par exemple, si on lui dit envoie la photo d'hier à ma mère, ben, en fait, il va savoir qui est votre mère. Et il va savoir quelle photo vous avez prise hier. Et en fait, il va faire l'action sans vous poser trois fois la question. Donc ça, c'est vraiment pratique. Bon, faut pas qu'il se gourde de photos, du coup. Hein.
Oui. Parce que s'il te sort...
Si c'est une photo de ton lave-vaisselle, c'est pas ça que tu voulais.
Bah oui, c'est un peu chiant.
C'est un peu ballot. Donc, il peut aussi créer des rappels tout seul en lisant vos mails en arrière-plan ou même aller chercher un numéro de confirmation perdu au fond d'un message pendant que vous êtes au téléphone. Bref, il devient l'assistant intelligent et fluide qu'on voulait tous.
Génial.
Alors ça, c'est bien, hein, c'est sur le papier, hein, c'est génial, mais on va voir sur le terrain.
Ouais, à voir qu'on sera sorti.
Donc je dis ça avec beaucoup de guillemets, quoi. Est-ce que ça va marcher et tout, on verra. Après, moi, à noter, ce que j'ai apprécié, c'est que pendant leur démonstration, ils n'accéléraient pas leur vidéo, c'était en temps réel. Donc ça, c'était plutôt cool.
Ok.
Mais c'est là, Maxime, que la grosse douche froide arrive pour tous. C'est Greg Ferdering. Voilà, alors là, ça y est, mon accent
ah ouais,
est
là,
parti.
J'ai pas compris. J'avais cru que tu allais dire Greg Guillotin au début.
Non, mais... Greg Ferdering, en gros, c'est le... C'est celui-là qui est responsable du développement des logiciels, etc.
D'accord,
il
chez
Apple. Il est connu parce qu'il y a beaucoup de mèmes sur lui, où il descend des escaliers, tu sais, un peu en mode jump et tout.
Ok.
Mettez son
ah,
nom,
si, ça me parle.
Greg Ferdering,
ouais.
Là.
Greg d'Apple.
Ouais, c'est ça, Greg Apple, développeur. Et vous allez voir, il y a plein de mèmes dessus. Et en fait, il est monté sur scène pour annoncer... Et il s'est dit profondément déçu, en fait, car série AI ne sera pas disponible en Europe au lancement cet automne.
Okay.
Alors, à cause de quoi ? À cause des lois européennes, hein, la fameuse DMA qu'on a déjà parlé plusieurs fois, qui en fait bloque plein de choses, en fait, pour notre sécurité, ouais. Et pour éviter que les entreprises prennent trop d'infos sur nous, etc. Ce que j'ai compris, c'est ça.
Ouais, bah oui, c'est pour avoir plus de sécurité et de maintien sur le
c'est ça,
sujet. Quoi.
Sur les données personnelles.
Ouais, voilà,
c'est
exactement.
Bon, on a tout résumé. Donc voilà, Apple bloque les fonctions majeures pour l'Union européenne. Au début, ce sera uniquement accessible en anglais. Et pour nous, il va falloir attendre au moins 2027. Donc nous vendons du rêve, mais on n'a pas le droit d'y toucher. Quoi.
Ouais,
c'est un peu chiant.
Stand-by.
On espère juste que GTA 6 sera sorti d'ici là. Mais sens, hein. Alors, ce n'est pas tout, heureusement. Pour faire tourner ce nouveau série complet... Il faut une puissance énorme, 12 gigas de mémoire vive minimum.
Ok, ah ouais.
Donc, tu vois, ça va, hein, parce ouais. que on pourrait croire qu'il fallait 32 gigas, mais en fait, 12, ça va. Et en fait, ça veut dire que votre iPhone 16 Pro, tout neuf, que vous avez payé une fortune, que vous êtes encore en train de payer votre crédit, hein, ou un modèle plus ancien, par exemple, ben vous êtes exclu de cette mise à jour. C'est réservé aux iPhone 17 Pro. Donc même moi, je suis un peu à la ramasse avec mon 17.
Ouais. Ouais.
Donc autant vous dire que ça fait un peu grincer des dents.
Bah ouais.
Du coup, je suis allé voir mon dentiste. Et non, je rigole. Et en fait, Apple nous fait le coup de l'exclusion matérielle. Et ça, c'est vraiment dommage.
C'est bullshit encore.
Ben, ils nous font ça tous les ans. Ouais, les trucs, oui, il faut le dernier iPhone.
C'est juste pour pousser, pour acheter l'iPhone Pro.
Ouais,
c'est
dommage. C'est dommage. Que ça peut le faire. Bon, voilà. Bon, pour me consoler, j'ai regardé la partie photo. Et là, en tant que professionnel, j'ai pris une grosse claque. Même un gros clic. Le clic d'appareil photo, t'as la ref. Ah, je pensais que t'allais faire le bruit. Et Apple a mis le paquet sur l'édition de l'image par IA directement dans l'application photo. Ils l'ont appelé le Spatial Reframing. C'est un truc de fou, en fait. Capable de changer l'angle d'une photo après coup en recadrant, ce qui manque autour pour très images. En gros, pour résumer, tu fais ta photo. Là, je te prends en photo, Maxime,
ouais.
Et je me rends compte que, bah, en fait, mon cadrage est vraiment pourri et que je suis pas vraiment un photographe pro. Et ben, en gros, grâce à l'IA, je vais pouvoir gérer mon angle de vue, donc aller à gauche, à droite, me zoomer et tout. Et en fait, il va spatialiser l'endroit, il va générer des images. Et c'est bluffant.
Ah ouais, genre en mode par exemple, genre imagine à droite, t'avais pas assez de marge, t'as pas pris la photo assez grande, et ben il va te générer un peu à droite.
C'est l'image. Plus l'angle de vue.
D'accord, ok.
Genre imagine, je t'ai vraiment pris de face, c'est moche,
j'ai envie de te tourner. Ah oui, c'est pour par exemple que tu me prennes d'à gauche par exemple.
Ouais, c'est ça.
Ah ouais, c'est stylé, ok.
Et même les éléments sur la table vont bouger, etc.
Ok.
Enfin, ils vont être géniaux.
Ok, stylé.
Ça, c'est vraiment génial.
Ouais, bah ouais.
Il y a aussi l'outil pour effacer les éléments en arrière-plan qui devient ultra puissant, pardon. Ça franchement c'était vraiment un vrai flop quand c'était vraiment Siri normal,
ouais.
Et donc
alors
là
que...
comme c'est Gemini ça marche vraiment bien.
Gemini ça marche du tonnerre, c'est incroyable.
C'est incroyable. Et du coup même le test, tu sais, de la main quand tu caches, tu me l'avais fait,
tu caches l'œil et bah ça te le refait vraiment bien.
Là c'est pour ça que ça fonctionne,
ouais. Alors qu'avec Apple, pouf,
ça te fait un tourbillon là.
Ouais, un tourbillon moche, un truc bizarre.
Donc là ça marche. Ça je l'utilise pas, mais les albums partagés s'ouvrent enfin aux utilisateurs Android ou Windows en pleine définition. Ils vont enfin pouvoir ajouter leurs photos dans les albums iCloud sans perte de qualité, donc ça c'est top. Et on peut même mettre une option d'expiration automatique pour que l'album s'efface tout seul après l'événement. Donc par exemple tu fais un anniversaire, pardon le micro, eh bien tu fais un album partagé.
Ouais, et puis tu le supprimes par exemple au bout de 2 mois, quoi. Quand
ouais, téléchargé, etc.
Ouais.
Et côté look, Apple peaufine son interface. On reste sur le style Liquid Glass. Mais la grande nouveauté d'iOS 27, c'est qu'il y a enfin un curseur dans les réglages pour doser l'effet à notre goût, de plus de transparence, plus de teintes. Les icônes gagnent aussi en profondeur avec un effet de réflexion super joli. Mm-hmm. Parce que du coup, Liquid Glass, des fois, il buguait trop. Enfin, c'était un peu moche, quoi. Enfin, c'était compliqué à voir. Il y avait un exemple, genre leur truc bleu, là, leur fond d'écran bleu.
Oui.
Le texte bleu sur blanc, ça marchait pas. Enfin, le texte blanc sur le bleu, ça marchait pas.
Ah ouais.
C'était illisible.
Okay.
Donc du coup, tu vois, il y avait plein de bugs comme ça.
Ouais, ouais, d'accord.
Je vous conseille le youtubeur Basti Ui. Voilà. C'est Basti sans MS, c'est les rediffusions de live, du coup. Où du coup, il a parlé de beaucoup de choses sur iOS 26. Enfin, okay. Sur iOS avec le Liquid Glass.
Intéressant.
Voilà, dédicace à lui, s'il nous écoute. Et pour les petits détails qui font du bien au quotidien, le volume des alarmes est enfin indépendant du volume général du téléphone. Donc, fini de rater son réveil parce qu'on a baissé le son de la vidéo. La veille de son lit. Donc, je regarde l'équipe de recherche avec grande insistance parce que elle n'arrête pas de faire la technique de la sonnerie à chaque fois parce que c'est un réflexe. oui, tu, à chaque fois, tu augmentes le volume, mais c'est bon, tu n'auras plus à le faire, c'est indépendamment. Et là, elle est trop contente. Et pour finir, il y a un égaliseur 3 bandes directement dans le réglage pour les AirPods. Donc tu pourras gérer les médiums, les basses. Mais bon, si vous écoutez Graffiti Radio, il n'y a pas besoin de toucher au réglage parce qu'on s'occupe de
c'est
tout.
C'est parfait.
Et pour tester voilà, tout ça, Maxime, je te propose qu'on écoute ta musique.
Et oui, Sony. Alors moi, j'ai choisi une musique de Sam Sauvage qui est en train de percer pas mal en ce moment en France. Et j'ai choisi la musique Ne t'en fais pas pour elle. C'est parti.
T'es venu seul ce soir, tu savais pas quoi faire. T'es resté près du bar, tu t'es mis à l'envers. Cherchant des regards, t'as trouvé que ton verre. Puis t'as croisé l'espoir dans son dos découvert. Non, 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 il ne faut pas y aller. Non, 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 crois-moi je te connais. Puis t'as dansé ringard, rien que pour t'y faire voir. Même le DJ se marre et tu t'es mis à croire. Quand elle t'a regardé que l'histoire sera belle. Mais tu t'es bien regardé, ne t'en fais pas pour elle. T'es pas l'homme de sa vie, tu seras l'homme de sa nuit. Plus rien n'est éternel, c'était pas mieux à fond. Ça s'apprend. Tu pensais que la vie c'était comme dans les films des années 70. Tes parents t'ont menti, tout a changé depuis. Ça t'a pas refroidi, t'as joué la comédie. Crois-moi que c'est pas fini. Non, 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 il fallait pas y aller. Non, non, t'as rien écouté. Puis t'as joué les bavards, rien que pour la faire asseoir. Là sur le côté du bar, et tu t'es mis à boire. Quand elle t'a regardé, t'as pris des étincelles. Mais tu t'es bien gardé, ne t'en fais pas pour elle. T'es pas l'homme de sa vie, tu seras l'homme de sa nuit. Plus rien n'est éternel, c'était pas mieux à fond. Avec son temps, tu verras ça s'apprend. Ne t'en fais pas pour elle. T'es pas l'homme de sa vie, ni même l'homme de sa nuit. Plus rien n'est éternel, c'était pas mieux avant, c'était juste différent. Faut vivre avec ton temps. Allez, viens là, je t'apprends.
Vous venez d'écouter Ne t'en fais pas pour elle de Sam Sauvage.
19h-20h30, c'est la revue tech sur Graffiti.
Il y a beaucoup de changements dans l'industrie des ordinateurs. Moment, oui. On n'arrive plus à suivre.
Ah ouais, là, Sony. Et Sony, là, c'est un gros changement, en tout cas, chez vous, si vous possédez un ordinateur.
La table ne t'a rien fait.
Pardon. je m'énerve pour rien. Non, pas pour rien, parce que vous allez voir. Ouvrez bien vos oreilles. Ce dont on va parler aujourd'hui, ce n'est pas d'une simple mise à jour, ce n'est pas d'un nouveau modèle de smartphone un peu brillant, un peu plus brillant que l'ancien. Non. On va parler de ce qui est présenté par les experts comme la plus grande refonte de l'histoire du PC depuis 40 ans. Et oui, messieurs, dames, spoiler, Apple l'a déjà un peu fait en avant, mais comme c'est pas des PC, c'est des Mac, voilà. Bref,
l'informaticien. Voilà.
La surprise, c'est que ce séisme ne vient ni de Microsoft, ni d'Apple, ni d'Intel. Elle vient... Sony, est-ce que tu as une idée?
Bah non, même pas.
Est-ce que tu as une idée de quel gros acteur sur le marché?
Non, mais attends, du coup, je pense que je me suis fait spoiler. Est-ce que ça commence par un N?
Est-ce que ça finit par un A? Oui, Sony, ça vient d'NVIDIA.
Yes.
Vous savez, cette boîte que les gamers connaissent bien, comme moi, ouais, NVIDIA, j'adore.
C'est ça le tatouage NVIDIA?
NVIDIA, en gros, sur le dos, t'as vu?
Vive les RTX avec un cœur, où c'est un peu kitsch, mais on va pas lui dire.
j'ai entendu.
Oh, le micro.
C'est une blague, évidemment, j'ai pas de tatouage NVIDIA.
Comment ils vont imaginer?
En gros, Nvidia, vous savez, cette boîte que les gamers connaissent par cœur parce qu'elle fabrique des cartes graphiques pour faire tourner les jeux vidéo, eh bien, Nvidia a décidé qu'elle ne voulait plus simplement être un accessoire dans votre ordinateur, elle veut en devenir le cerveau absolu. Ils viennent de dévoiler une puce révolutionnaire qui s'appelle la RTX Spark.
Ok.
Attends, ça me fait penser à...
Attends, mais c'est comme Gemini, non?
Oui. Attends, j'ai même pas fait le lien.
C'est à la mode ce nom ou quoi?
Ouais, j'avoue, j'ai même pas fait le lien. Mais j'espère que c'est pas la même chose.
Équipe de recherche.
Non, mais RTX Spark. Mais si, je crois que c'est bien Spark. Mais équipe de recherche, on va regarder la nouvelle puce de Nvidia. Comment elle s'appelle?
En plus, eux, ça leur rappelle les souvenirs. Équipe de recherche, depuis qu'ils sont passés à l'espace.
Ouais, c'est vrai qu'ils ont fait un tir dans l'espace, c'est vrai. Mais en tout cas, cette carte, croyez-moi, elle risque de totalement redistribuer les cartes de la tech des PC. Et pour comprendre donc la nouveauté, il faut faire un tout petit peu de technique. Mais promis, je vous perds pas. Je vais y aller mollo. Je vais vous prendre par la main, vous en faites pas. Merci. D'habitude. Dans un PC, surtout qu'on en a déjà un peu parlé, mais dans un PC classique, vous avez les composants séparés. Vous avez le processeur d'un côté, c'est souvent fait par Intel ou AMD. Le processeur, c'est le cerveau de l'ordinateur. Vous avez de l'autre côté la carte graphique, qui s'occupe de tous les graphismes, des logiciels vidéo, tout ça, qui est du coup très utile dans les jeux vidéo. Et on a aussi d'un côté les barrettes de RAM, dont on a également beaucoup parlé en ce moment.
Avec l'augmentation. Sais pas si t'es assez rapide pour regarder, Maxime, le prix de ta RAM, là, qu'on n'arrête pas de comparer à chaque fois.
Si, j'ai regardé, je crois, avant-hier, et elle est redescendue un peu, c'est redescendu à genre 400€, mais c'est toujours excessif. J'avais acheté, moi, 150, un truc comme ça, quoi.
Waouh.
Donc c'est toujours excessif. Et donc, du coup. Donc les barrettes de RAM, c'est ce qui est en train d'exploser en ce moment, qui s'occupe de faire de la sauvegarde rapide, qui est utile pour le processeur, pour le cerveau en fait. En gros, vous avez le processeur, je résume, c'est le cerveau, la carte graphique, c'est ce qui fait les graphismes, et la RAM, c'est ce qui envoie les données au cerveau, au processeur. Voilà. J'espère que vous n'avez pas perdu, mais en gros, dans un PC, ça se passe comme ça. Et donc les données, elles voyagent entre les trois beaucoup dans un PC, sur la carte mère, grâce à des bus, des canaux en gros qui sont faits pour ça. Et là, avec la RTX Spark, si c'est bien ça.
Oui, alors du coup, le kit de recherche me dit que c'est la même écriture, mais c'est pas la même chose.
D'accord, ok, donc c'est bien, ils ont appelé Google IO, ils ont appelé un nouvel IA Spark, et là,
c'est une nouvelle
RTX
mode.
Spark nouveau, ils veulent tous aller dans l'espace, vraiment. Hein. Ils veulent tous concurrencer Elon Musk.
La Robitech,
oui, évidemment. Nous, on va créer une nouvelle IA bientôt qui va s'appeler Spark 2, et puis vous serez choqués. En tout cas, avec cette nouvelle puce, la RTX Spark, Nvidia change tout. Ils prennent, en gros, ce que je viens de vous dire, le processeur, la carte graphique, de toute dernière génération, évidemment, et ils collent tout ça sur un seul et même composant, une puce unique. Et le coup de génie, c'est qu'ils y intègrent jusqu'à 128 gigas de mémoire unifiée, c'est-à-dire que le cerveau et le moteur graphique piochent dans la même réserve de mémoire en fonction des besoins. Parce que là, jusqu'à maintenant, en fait, on avait donc le cerveau, enfin le processeur avec sa RAM à côté, qui était pas loin, et la carte graphique, lui, il avait ce qu'on appelle de la VRAM, qui était intégrée dans la carte graphique. Maintenant, Le processeur et la carte graphique sont intégrés sur une même puce avec 128 gigas de mémoire unifiée, donc il n'y a plus de RAM séparée, c'est la même mémoire pour les deux, et en gros ils piochent ce qu'ils ont besoin. Imagine le cerveau, il dit j'ai besoin de 48 gigas de RAM, je prends ça, ben, la carte graphique de 30, ben, je prends 30, enfin voilà, et en gros ils se partagent. Okay. Et imaginons si à un moment la carte graphique elle est pas du tout utilisée, bah, le processeur il peut utiliser 100 gigas de mémoire sans problème quoi. Je tape sur la table.
Ouais,
c'est un truc de fou. Non mais vraiment ils se partagent les trucs, voilà. Mais bon, du coup, j'ai dit juste avant, ça vous rappelle pas quelque chose? Bah c'est normal parce que c'est exactement la recette qu'utilise Apple avec ses puces M dont on a parlé.
Ah, t'es pas bête. Oui.
Ouais, dont on a parlé sur la dernière émission. Donc la nouvelle puce M, M1, M2, M3, M4 sur les nouveaux MacBook depuis 2020. Et on sait à quel point ça leur a réussi en termes de puissance et d'autonomie. Nvidia applique donc la même méthode, mais au monde du PC Windows. Et d'ailleurs, je pense que même Nvidia c'est plus poussé parce que je crois pas que les puces M sur Apple ce soit une mémoire partagée. Je pense que vraiment ils ont leur mémoire chacun, la carte graphique sur la même puce, ok, mais là c'est vraiment une mémoire partagée, donc à voir la différence que ça donnera.
Ouais.
Mais alors concrètement, qu'est-ce que ça donne pour nous les utilisateurs? Eh bien, parlons d'abord du jeu vidéo. Et oui, Nvidia nous promet qu'avec cette puce, on aura des performances équivalentes à une très bonne carte graphique d'ordinateur portable, la RTX 5070. Donc là, je vous le dis, c'est quasiment le top du top. Moi, j'ai une 5070 Ti, donc qui est un peu plus puissante. Mais la 5070, vraiment, c'est le haut du panier. Mmh. En clair, vous pouvez faire tourner des mastodontes ultra gourmands comme Cyberpunk ou Fortnite à 100 images par seconde. Seconde en haute définition, c'est hyper fluide. Vraiment, c'est une RTX 5070. Vraiment, c'est le top du top pour faire du gaming tranquille. Mais la vraie révolution, elle est ailleurs. Aujourd'hui, si vous jouez sur un PC portable et que vous le débranchez de sa prise de courant pour aller sur le canapé, bah les performances, elles s'effondrent. Hein. Vraiment, on le voit tout de suite, divisé par deux, boum, tout de suite, le jeu est hyper moche et tout, trop nul. Le jeu se met à raver. Alors qu'avec la RTX Spark, Nvidia promet que les performances seront exactement les mêmes que vous soyez branché sur secteur ou sur batterie. Donc ça, c'est fou.
C'est-à-dire et l'autonomie.
Attends, j'ai pas fini, Sony. Je vais y venir, les PC de... En tout cas... Si on débranche son PC, ça devient enfin une vraie console portable géante, fine, légère et silencieuse. Donc ça, c'est top. Mais attention quand même, du coup, Sony, il n'y a pas de magie noire, parce que si tu lances un gros jeu à fond sur la batterie, bah évidemment, Nvidia avoue même qu'au bout d'une heure, bah on n'aura plus de batterie. Donc ça, ouais. c'est logique. La physique reste la physique, ça consomme de ouf, mais au moins, ça défonce pas les performances. Tu vois, les performances restent les mêmes, même si évidemment, du coup, ça reste quand même pas bon en autonomie. Ben, ça reste, tu fais du gaming, quoi. Donc, ça reste hyper gourmand. On va pas se voir la face. Voilà, ça existe pas à moins de voir mettre une batterie énorme.
Mais c'est ça que j'ai jamais aimé sur les PC, c'est que du coup, t'es vraiment obligé d'avoir ta batterie à côté, parce que en fait, bah, réduit. Tu vois, par exemple, je suis en voyage, j'ai envie de faire un montage dans le train.
Ouais.
Et j'ai pas mon chargeur sur moi, ben je sais que mes performances en vrai pro vont être moins bien que si j'étais sur
Mais là justement, elles seront meilleures les performances, elles seront aussi bien que tu sois sur batterie ou branché. Mais là du coup, c'est l'autonomie, il faudra penser à le recharger plus souvent quoi.
Que
ou à le brancher.
Que un Mac, voilà, je peux faire du montage.
Tu vas te calmer, Sony, tu vas te calmer. Combien de temps ça tient un Mac quand tu fais du montage et tout?
J'ai un pas. Mac
sans être branché, évidemment.
Je sais pas, mais je sais que moi ça peut me tenir une matinée ou même un peu plus des fois. En fait, ça m'arrive des fois d'aller quelque part sans mon chargeur. En fait, je vais pas stresser parce que tu vois, par exemple, le CN Graffiti, ça dure 1h30 ou plus.
Ouais,
je le recharge jamais, mais après, d'accord. C'est du traitement de texte, donc ça n'a rien
à voir. Voilà. Mais par exemple, quand tu fais du gaming sur Mac, je pense que
non, j'en fais pas.
Ouais, voilà, mais je sais que t'en fais pas. Mais c'est pas aussi gourmand que le. Enfin, c'est plus gourmand que le reste, quoi.
Mais le montage, ouais, je peux tenir longtemps. Ça va.
Ouais, donc c'est bien.
Mais là, après, incapable de dire combien de temps.
Ouais, bah oui. Mais après, là, les performances de la RTX Spark vont être meilleures, même si tu fais du montage. Pour moi, ça va tenir plus qu'une heure, tu vois. Ça va tenir sensiblement pareil. Et limite, mais par contre, ce qui est bien, c'est que tu vois, les PC gaming, jusqu'à maintenant, ils étaient hyper épais, enfin, c'était
là,
chiant, quoi.
Fin,
et c'était gros, ben là, ils seront fins parce qu'il n'y a qu'une puce. Mais du coup, je me pose la question de si ce serait même pas intéressant pour eux de mettre une grosse batterie. Genre, tu vois, sur certains PC, tu gardes certes largeur, c'est un mastodonte, mais au moins, il a une batterie énorme et il tient 5 heures en jouant, tu vois. Ça serait incroyable.
Et du coup, il y a des ventilos, non, pour refroidir ça?
Oui, il y a quand même des ventilos, bien sûr. Oui. Mais tu vois, ce sera aussi fin qu'un Mac, par exemple, je pense.
Trop bien.
Ouais.
Pour jouer. Alors que là, c'est bien sur le papier.
Ouais, bah oui. Alors que là, des PC gaming, gaming portable, c'est gros, c'est lourd, c'est pas pratique.
Tu ressembles à un puant avec les trucs qui David Guetta
les LED partout, ouais. Non, ça l'avenir du PC gaming portable promet d'être meilleur. Mais là où cette puce est attendue au tournant, c'est aussi sur l'intelligence artificielle encore.
On dirait qu'on est bourré, l'intelligence artificielle.
Et vous allez me dire encore l'IA, bah oui, mais pas celle du cloud cette fois-ci, parce que grâce aux 128 gigas de mémoire, vous allez pouvoir faire tourner des modèles d'IA gigantesques directement sur votre propre ordinateur en local. Et ça, on en avait parlé du coup sur une ancienne revue tech aussi.
On parle de tout dans la revue tech.
Exactement, hein, faut écouter les anciens podcasts. Non, mais... pas besoin du coup de connexion internet, pas besoin d'envoyer vos données sensibles ou vos fichiers confidentiels sur les serveurs d'OpenAI ou de Google. Et surtout, pas besoin d'abonnement payant. Tout reste chez vous dans votre machine. C'est l'argument masse d'NVIDIA pour la confidentialité des données. Vous pouvez faire tourner un gros truc d'IA directement en local sur votre PC sans l'envoyer sur un serveur. Okay. Et pourquoi faire bah, du coup, je viens de vous le dire. En gros, tu peux dire réserve-moi un cours de badminton pour mardi ou dessine-moi une maison en 3D. Et l'IA, elle le fait sur ton PC en local et ça part pas, je sais pas où quoi. Ça part pas sur les serveurs, n'importe où. Et donc, ça n'entraîne pas non plus les modèles d'IA, tu vois, c'est beaucoup mieux. Pour lancer ça, NVIDIA n'arrive pas seule. Elle a signé des partenariats massifs. Déjà, côté logiciel, des géants comme Adobe ont réécrit leur programme. Par exemple, sur le nouveau Photoshop, ils ont optimisé pour la puce. Le traitement d'image va être jusqu'à 20 fois plus rapide. Peut-être que ça va dépenser Apple, attention. Enfin, dépasser Apple.
Alors, on verra bien.
Et côté machine, tous les grands constructeurs se sont jetés dessus, Asus, HP, Lenovo et même Microsoft, pour ses propres ordinateurs Surface. On nous promet trois formats. Des PC portables ultra fins, à peine 14 mm d'épaisseur avec une autonomie record en bureautique. Des mini PC de bureau façon Mac Mini, pensés pour rester allumés H24 pour que vos agents IA bossent pour vous la nuit. Et enfin, une station de travail pour les pros, un monstre absolu doté de 748 gigas de mémoire unifiée. Là, tu te rends compte ? On a actuellement 32 gigas de RAM dans nos trucs et là il y a 32 gigas de enfin non, 748 gigas de mémoire unifiée, c'est énorme. C'est énorme de ouf. Le PDG d'NVIDIA imagine que demain on aura tous un super calculateur IA chez soi, un peu comme un home cinéma ou un R2D2 personnel, ce serait incroyable. Sur le papier, c'est un sans faute, mais on a il y a quand même un énorme mais et c'est là que le doute s'installe. Et après je termine. Mais toute cette technologie incroyable ultra moderne va tourner sous
Linux,
attention,
non
justement Windows. Et là c'est là que c'est dommage. Windows est un système d'exploitation fantastique, hein, mais il traîne un héritage lourd de 40 ans. C'est un paquebot difficile à manœuvrer qui accumule les incohérences d'interface, les bugs, etc. Donc Windows c'est très bien pour le grand public, mais c'est vrai que ça est quand même plus gourmand qu'un Linux. Le risque, c'est tout simplement de venir greffer le moteur du futur, la nouvelle puce Spark, sur un châssis de 1995. La meilleure puce du monde ne sert à rien si le système d'exploitation qui la pilote rame ou plante. Et Apple réussit parce que eux, ils maîtrisent le matériel et le logiciel qui va derrière. C'est pour ça que ça marche si bien. Nvidia, elle, est obligée de faire confiance à Microsoft et historiquement, les tentatives de faire tourner Windows sur ce genre de puce se sont souvent soldées par des échecs cuisants, comme en 2012 où Microsoft avait perdu près de 900 millions de dollars en un an. Donc, qu'est-ce qu'on retient ? La RTX Spark d'Nvidia sortira à la fin de l'année, cet automne. Pour l'instant, on n'a pas encore les prix ni de tests indépendants, donc la prudence reste de mise. Mais une chose est sûre, le marché du PC est en train de vivre sa plus grande secousse. Depuis des décennies, Nvidia s'attaque de front au maître historique du secteur. Si Microsoft réussit à moderniser Windows à temps, on s'apprête à entrer dans l'ère des ordinateurs coéquipiers, des trucs incroyables. Dans le cas contraire, la puce de l'année pourrait bien être freinée par les bugs du passé et ce serait vraiment dommage. En tout cas, affaire à suivre de très très près cet automne. Bon alors Sony, moi j'ai pas encore la Switch 2, mais toi je sais que tu l'as, et d'après toi c'est quoi les meilleurs accessoires pour la Switch ?
Eh ben oui, déjà on va parler de Nintendo. Oh non putain, c'est encore là.
Oh non, les avocats qui rentrent mince.
Vous avez vu le budget sonore ?
Ah tu l'as fait avec ton tel ?
Ah oui, je l'avais pas prévu, c'est ça que je cherchais.
Le budget sonore.
Faudra que je demande à Bastien comment on met des trucs comme ça. Bon bref. Bon, on va parler positivement de Nintendo, on va leur donner de l'argent là, parce que oui, La Switch, elle est cool, mais il manque des accessoires. Bref. Ouais. Bon, déjà, la base, quand on achète une Switch, il faudrait commencer par le moins glamour, mais le plus viral. C'est la protection, en fait, de la Switch. Parce qu'en fait, il y a la Switch, Nintendo, ils ont sorti en fait une sacoche de transport, voilà, officielle. Okay. Donc ça existe, elle fait très bien le taf, elle est fine, elle est rigide et elle vient avec un film de protection pour l'écran. Donc ça, c'est génial pour les rayures. Mais si vous êtes du genre un peu baroudeur, voilà, comme toi Maxime, ou que vous avez tendance à jeter votre sac à dos par terre en rentrant du boulot.
Ah, je suis un fou.
Ah bah non, mais là t'as été un fou.
Tu rigoles, mais anecdote, j'ai pas fait gaffe. Une fois, j'avais mon sac avec mon plateau repas dedans et bah je l'ai éclaté par terre, j'ai pas fait gaffe. Voilà, aïe. Juste l'anecdote.
C'était quoi le plateau repas?
Heureusement, j'avais mangé, c'était en revenant du taf, donc ça va. Mais j'ai cassé la boîte, quoi, dans
casse
le sac.
La tête. Voilà. Donc, bref, bon, bah, ne jetez pas vos trucs, ça ne sert à rien. Et donc il y a Tom Tok, je sais pas si tu connais, qui c'est la référence absolue.
Ça paraît pas, non.
En fait c'est une protection de qualité militaire, okay. Et une coque ultra rigide.
Ah non, militaire. Ah ouais, ils ont prévu de balancer des obus sur la Switch, c'est clair. Attention.
Bah attends, les militaires, ils peuvent bien jouer, hein.
Ah oui.
Donc quoi, ça, c'est ultra rigide de l'extérieur et à l'intérieur. En fait, c'est tout doux aussi à l'intérieur pour parer l'écran. Et en plus, elle a des petits compartiments modulés pour ranger les cartouches de jeu et éviter qu'elles se baladent. Donc, c'est vraiment le truc quand tu as une Switch à acheter.
Trop bien.
Et comme j'ai dit, hein, il ne faut pas oublier la vitre, enfin le verre trempé à coller sur l'écran.
De protection.
Dès la sortie de la boîte, parce que l'écran de la Switch, il est super. Ça serait un peu con, du coup, de la rayer dès le premier jour.
C'est
quoi.
Sûr.
Et c'est les cordonniers qui sont les plus mal chaussés, c'est ce qu'on dit.
Ça doit être ça.
Bah, comment dire que je ne l'ai pas fait.
Ah, bah bravo Sony.
Après, c'est que moi, je l'amène pas, en fait. Elle est vraiment sur le dock et puis ça
moi,
bouge pas.
Moi, c'est pareil, elle bouge pas trop.
C'est vraiment rare. Ouais. Donc voilà. Maintenant, le confort de jeu. Alors ça, c'est du vécu, parce que des fois, quand je l'utilise en mode portable et que je joue à Zelda pendant quelques temps, une heure, deux heures, ben en fait, la Switch est tellement longue que du coup, ça fait un peu mal aux mains.
Ok.
Eh bien, heureusement, il y a des ingénieurs qui ont repensé ça avec du coup les Joy-Con de base. Enfin, en gros, ils corrigent en fait les Joy-Con. Ça s'appelle le Split Pad Pro de chez Ori. Ori, c'est un peu plus connu, ça.
Ori, ça me parle.
Ouais. En fait, concrètement, ce sont deux gros blocs qui viennent remplacer les Joy-Con quand vous jouez en nomade. Mm-hmm. Et on retrouve l'ergonomie des gâchettes larges et des boutons programmables à l'arrière. Alors oui, ça élargit pas mal la console. Ça lui donne un look un peu massif. Mais pour le confort de jeu, c'est le jour et la nuit. Hein. On peut enfin enchaîner les heures de Zelda. En plus, il va bientôt sortir. Je ne sais pas si tu as vu le teaser. En 2026.
Pas du tout.
Mais t'as un nouveau Zelda qui va sortir.
Ok, voilà. Trop bien.
Dédicace à Sébastien. Donc, et si vous jouez sur votre télé, là, ne cherchez pas midi à 14h. Il vous faut la manette Nintendo Switch Pro officielle.
Wow.
C'est tout simplement l'une des meilleures manettes sur le marché. Tout console confondu. Alors, oui et non, parce que
j'ai des doutes,
la
quand même.
PS5 est pas mal aussi.
Ah oui.
La manette de PS5 et tout. Mais en vrai, elle est plutôt confortable. Moi, quand je joue sur télé, je l'ai, la manette Switch. Bon, j'ai pas la manette Switch 2, j'ai la manette Switch 1. Allez, espèce de pauvre. Mais elle fait le taf, en fait. Elle est vraiment bien, elle est agréable. Oui. Je peux jouer plutôt longtemps. Et donc, pour les sessions de Mario Kart, c'est pas mal. Et ça, il paraît que ça vous fait gagner. Hein.
Ouais, Sony, je suis toujours meilleur que toi. Faut pas...
C'est ça, on arrêtera les
courses. Et pas à t'agir.
Et je serais trop hypé de tester, moi, le volant Mario Kart.
Le volant, il y a un volant.
Il y a un volant Mario Kart.
Il y a un volant sur la Switch.
Tu l'as jamais vu?
Ben moi sur la Wii j'avais un volant, mais sur la Switch
je
savais pas.
Ah oui, tu mets la manette dans le petit volant.
Moi je les ai,
c'est vraiment un volant là. C'est.
Ok. Ouais bah. Oh là.
Le stockage, c'est le nerf de la guerre. Alors là Maxime, on arrive bon j'ai fait un 6-7. Bon,
ah non, ouais, avez... c'est pour ça que.
C'est bien ce que je faisais.
Je voulais pas le dire, Sony. Je voulais pas le dire.
On a 12 ans et demi dans ce studio. Hein, c'est.
Il y en a plein qui n'auront pas la réponse, je suis sûr.
Si.
6-7. Bref.
Donc là, on arrive sur un sujet sensible, Maxime. C'est le stockage. Hein, vous vous souvenez de mes galères de mémoire avec mon téléphone?
Ouais.
Et bien sur cette console, c'est pareil, les jeux de la Switch sont beaucoup plus gourmands qu'avant, les textures ils sont plus lourds et la mémoire interne de la console est très vite saturée, surtout si vous achetez vos jeux en démat sur l'eShop. Il y a aussi en démat, pas que sur l'eShop, vous avez aussi en rayon, par exemple quand vous les prenez à la Fnac, Leclerc, tous les concurrents, tu peux acheter une boîte de jeux où il y a juste un code à l'intérieur.
Non, mais ça, c'est.
Alors, c'est bien ce qu'il le notifie. Moi, je l'ai vu à Leclerc, par exemple, il le notifie.
Ok.
Ils mettent.
Heureusement.
Donc, ouais, c'est assez drôle. Et on en avait aussi parlé dans la revue Tech, c'est l'obsolescence programmée des jeux, quoi. C'est la fin des jeux.
On en
a parlé de ça, oui.
Oui, on en a parlé de la fin des CD, des disquettes, des trucs comme ça. Bah, c'est vrai que c'est.
On parle
c'est
de
dommage.
Tout, c'est magnifique.
Ouais,
magnifique.
C'est... On a déjà tout évoqué. En fait, on va arrêter le mois prochain. UT, c'est fini.
Donc, l'accessoire obligatoire, c'est la carte micro SD. Pour être tranquille, je vous conseille de viser directement une carte SD 256Go ou 512Go. Les cartes SanDisk Ultra ou les Samsung Evo Plus sont parfaits pour ça.
Ouais.
Elles ont ont des vitesses de lecture super rapides, ce qui évite en fait d'avoir un temps de chargement de 3 minutes à chaque fois que vous démarrez une zone de jeu, quoi. Et c'est le genre de détail qui peut vous changer votre expérience.
Ouais,
c'est comme quand vous passez d'un disque dur manuel à un SSD.
Ouais. Ah, vraiment, c'est game changer. Hein.
Non, c'est incroyable. Mmh. Et le prix des SSD aussi, on n'en parle pas assez, mais ça aussi, c'est très cher.
Oui, bah, franchement, la tech est très chère. Hein.
Ouais, non, c'est 500 euros le 1 Tera, non, je sais plus.
Je sais plus, mais c'est cher de ouf.
Bon. l'autonomie aussi, on en parlait avec le PC tout à l'heure. La Switch est vraiment mauvais aussi. On le sait, la Switch 2 est puissante, et qui dit puissante dit consommation d'énergie. Si vous prenez le train pour un long trajet ou vous partez en week-end, la batterie intégrée va vite crier famine, surtout sur les gros jeux gourmands comme Cyberpunk.
Ouais, Cyberpunk.
Ouais. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Déjà, il faudrait peut-être avoir des jeux.
GTA 6 bientôt.
Sur Switch.
Sur Switch.
Graphisme.
Ouais, j'avoue, il faudrait peut-être avoir des jeux carrément.
Ça serait horrible. J'ai pas envie de voir ça.
Non.
Et l'accessoire de secours, c'est une bonne batterie externe, mais attention, on ne prend pas n'importe quoi, il faut une batterie compatible avec la technologie Power Delivery.
Yeah.
Donc, pour pouvoir recharger la console pendant que vous jouez. La marque Anker, ils font des très bons modèles, voilà. Et en fait, ça vous permet de recharger la console 2 à 3 fois entièrement.
Ça, c'est bien.
Il faut des bons ampères, enfin, il faut une bonne batterie.
Oui.
Et en gros, au moins, ça permet de rester serein dans les transports et ne pas avoir...
Et de jouer toute la journée en train.
Et pour la maison ou le bureau, si vous avez marre de débrancher le chargeur officiel de votre dock à chaque fois que vous bougez...
Ça c'est un vrai truc.
C'est chiant. Il faut acheter juste un deuxième chargeur secteur Anker Nao USB-C. Il est tout petit, il délivre une puissance, une bonne puissance et il se glisse partout dans les poches. Alors... Je ne vais pas parler de dock, pas officiel Nintendo, parce qu'il bloque, en fait, un peu comme Apple, il bloque logiciellement les autres docks, en fait.
C'est nul.
Donc, il faut acheter un dock Nintendo.
Bah, c'est Nintendo, c'est Nintendo, il bloque tout.
Fais gaffe, on va remettre le son.
Pardon, non, venez pas.
Et ben tiens, on parle du son. Par exemple, vous êtes vraiment dans une pièce où les gens ne font pas de bruit. J'avais envie de faire une blague, parce que je la lance,
Un
crématorium. non, j'arrête. Non, c'est nul.
Bon. Bah après, il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent
église,
à Switch 2.
Je sais pas. Bon bref, quelque part, il faut pas mettre le son du jeu. Quoi.
Il faut faire chut. Tais-toi là.
Dans une salle d'attente, c'est mieux. Une salle d'attente, ça aurait été mieux. Désolé, voilà. Donc bon, c'est horrible là, cette blague. Donc la Switch 2 gère enfin très bien le Bluetooth pour les casques sans fil. Si vous avez déjà des AirPods ou des écouteurs sans fil, bah ça fait très bien le taf pour dépanner dans le bus. Mais si vous voulez une vraie immersion, surtout pour les jeux d'action ou d'aventure, le casque SteelSeries Artis Nova 7 est une petite merveille. Il vient avec un petit dongle USB-C qu'on branche directement sous la console et le son il est ultra fluide, il n'y a pas de latence, donc c'est génial pour les jeux de compétition. Donc avec un petit budget on peut s'équiper, en fait, on peut équiper pendant la Switch 2 et en fait vous n'avez pas besoin d'acheter d'un coup hein, le kit de démarrage obligatoire, c'est vraiment la pochette de protection avec la vitre trempée là. Et une bonne carte SD pour le stockage. Parce que sinon, si vous téléchargez plein de trucs, ça va être mort.
Bah oui.
Le reste, comme le SpeedPad Pro, c'est pour un confort, en fait, c'est tu sais, le casque, du coup, sans fil, mais c'est pas obligatoire pour jouer à la Switch. Voilà. Donc,
bah écoute, on a fait le tour. Et bah pour ceux qui veulent tout acheter, vous en avez quand même pour un bon billet, je pense.
Ouais, c'est clair. Toi, t'as des accessoires ou pas sur, sur ta
Switch ?
Non,
moi j'ai juste une petite sacoche pour la transporter, mais c'est tout. Ouais.
Juste une sacoche.
Ouais,
ok.
C'est tout. Et je peux mettre le dock dedans et tout. En plus, elle est jolie, c'est à l'effigie de Mario, donc sympa.
C'est vrai ?
Ouais.
Stylé.
Ouais.
Bah moi, j'ai pas d'accessoires en vrai. Voilà, je vous ai fait cette liste.
Si, tu viens de dire que tu avais la manette.
Si, j'ai la manette. Ah oui, mais c'est un accessoire du coup.
Voilà,
j'ai une télévision en accessoire.
Ah ouais, moi aussi.
Ça me fait pas.
J'ai un câble HDMI.
J'ai une prise secteur. Bon, bref. Bon, on va se remettre de ma blague pourrie avec Strom Your Feed. Là, Maxime, pour une fois que c'est
c'était
moi qui...
C'était pas trop mal après le feed. C'est un T à la fin, pas un D.
Feed.
Sinon,
ah, Your Feed.
Vas-y, on fait, refait.
Donc c'est Strom.
Non, il n'y a pas de R.
Ah, c'est Stomp Your Feet.
Non, c'est... Bon, je vais la faire. C'est Stomp Your Feet de Anna Lang.
Et puis là, Maxime, tu vas kiffer la musique.
Allez, c'est parti. Take your body. Stomp your feet, shake your body with the beat. Where's that acid? I'm a freak. It's all we ever knew. That's what ravers do. Stomp, stomp, stomp your feet. Shake your body with the beat. Where's that acid? I'm a freak. It's all we ever knew. That's what ravers do. Stomp, stomp, stomp your feet. That's what ravers do. Stomp your feet, shake your body with the beat. Where's that acid? I'm a freak. It's all we ever knew. That's what ravers do. Stomp, stomp, stomp your feet. Shake your body with the beat. Where's that acid? I'm a freak. It's all we ever knew. That's what ravers do. Stomp, stomp, stomp your feet. Shake your body with the beat.
Et vous venez d'écouter Strom Your Feet de Anna Lang, c'est ça ?
On va dire ça.
Ok, c'est bon ? Ok.
Ouais, on va dire ça.
Eh bien Maxime, je te laisse aujourd'hui lancer les grands formats.
C'est parti.
GravityRadio.fr, le direct, les podcasts et bien plus encore.
Bon, Sony, après avoir défoncé les enceintes de graffiti, avoir mis à fond là, explique-nous comment est-ce qu'on peut reprendre le contrôle de son smartphone aujourd'hui.
Et oui, Maxime, on va parler de tech qu'on subit au quotidien, malheureusement. Pour poser le décor, j'ai déniché des statistiques quantiques, etc.
Ah oui.
Qui font un peu froid dans le dos. Est-ce que tu sais combien en moyenne on passe sur notre téléphone, par exemple? Bah oui, contexte quand même.
Je dirais peut-être deux heures. Allez,
une ou deux heures
en moyenne.
Les Français en moyenne. Hein.
Les Français en moyenne, ouais, je dirais deux heures parce qu'il y a peut-être des gens qui n'en passent pas beaucoup, je pense.
Ok, je ne sais pas si l'équipe de recherche va prendre le micro pour participer. L'équipe de recherche, combien à ton avis? Oui, vas-y, prends le micro. Bonjour l'équipe de recherche.
Bonjour.
Avec la voix. Combien à ton avis un Français en moyenne passe de temps sur le téléphone?
Je sais pas, il y en a, ils passent. Je vois les collégiens, ils passent des fois 13 heures, c'est impressionnant.
Ouais, ouais.
Donc je pense qu'on est plus sur du 5 heures, je pense.
5 heures. Eh ben, tu y es presque parce que c'est 6 heures.
Wesh, en moyenne. Ah, je me suis dit, la moyenne, elle va être basse parce que tu sais, t'as tous les papy-mamies qui passent pas beaucoup de temps et tout.
Mais... 6h40. Non, mais c'est dingue.
C'est une folie.
Bon, là, c'était trop pour moi le calcul. Donc ça fait combien en moyenne par jour, en fait?
C'est par quoi ça, 5 heures?
Par jour.
6
heures,
voilà,
hein, par minute. 6h40 minutes par jour devant un écran.
Oui, voilà. Et donc, c'était quoi ta question?
Et le pire, c'est qu'on souffle.
Mais non, mais
en fait, j'ai jamais réponse.
Mais oui, là, c'est quoi la moyenne par jour? Bah, 6h, enfin 6h40.
Waouh, mais dis donc, on n'est pas au niveau de l'équipe de recherche. Hein. Donc, le pire, c'est qu'on souffre tous de cette dépendance à la dopamine, celle qui nous fait déverrouiller notre écran en moyenne. Combien, à votre avis? C'est le jeu des chiffres.
Allez, je suis chaud, vas-y, je vais monter beaucoup plus. Oh, par contre, déverrouiller l'écran par jour, en
genre
moyenne...
Genre juste pour regarder l'heure, peut-être,
ouais,
ou comme
ouais,
ça
ouais. Ça doit être 200 fois, ça se trouve. 100, 150, 200 fois.
Ok, et équipe de recherche?
Ouais, j'aurais dit pareil aussi, à peu près.
Ouais.
C'est 150 fois par jour.
Ouais, voilà.
Juste pour scroller. Hein.
Ouais, c'est chiant.
Mais
des fois, genre, tu fais ça, tu...
Mais oui.
Oh, Dieu, hop, en fait.
Mais non, mais il y a des techniques pour éviter ça, pour ouvrir le téléphone et on se demande pourquoi.
Ah ouais.
Alors aujourd'hui, je vais vous proposer. Oui, alors si je fais plusieurs choses en même temps, ça va pas le faire. Aujourd'hui, je vais vous proposer un guide de survie avec mes astuces et des méthodes concrètes pour hacker votre téléphone avant que ce soit lui qui vous hack.
Ah ouais.
Ah ben non, mais là, ça déconne plus.
Ah, c'est clair. C'est du sérieux.
Ah ben non, mais oui. Donc déjà, il faudrait. Je vais parler en conditionnel. Automatiser les modes de concentration. C'est la première astuce. Hein, c'est d'arrêter de subir les notifications toute la journée.
Ouais.
En gros, il faudrait configurer des modes de concentration qui s'activent tout seuls selon votre journée, que vous soyez au travail ou à la maison. J'espère que vous avez compris, parce que même moi, je me suis perdu là.
Si. En gros, il faut que vous mettiez. Non. Je rigole. Si, en gros, il faut juste mettre des moments de la journée où juste où ça bloque notif, quoi. Des moments de concentration dans la journée. Et ça, sur tous les téléphones, il y a ça aujourd'hui. Hein.
C'est ça.
C'est vrai que des moments de concentration.
C'est devenu la base.
Ouais.
Non, c'est génial. Donc, alors, pour iPhone, vous allez dans réglages, puis dans concentration. Vous créez un profil, par exemple, travail, et vous définissez une activation automatique sur votre lieu ou sur une plage horaire. Vous pouvez choisir précisément et quelle personne et quelle application ont le droit de vous faire vibrer votre téléphone. Sur Android, c'est très similaire. Vous allez dans paramètres, puis dans mode et routine, vous pouvez créer une routine automatique qui bascule votre téléphone en mode discret dès que vous connectez au wifi de votre boulot.
D'ailleurs, c'est bien parce qu'il y en a déjà beaucoup qui sont, je viens de regarder, qui sont déjà là. Genre, je vois, il y a conduite, cinéma, exercice physique,
cinéma,
détente, travail.
Trop drôle.
Ouais.
Mais trop bien, bah, du coup, voilà, vous pouvez même les mettre.
Ouais.
Et du coup, j'ai pas fait le point avec vous. Est-ce que vous êtes un peu, on va pas dire victime, je remets l'équipe de recherche. On en profite de l'équipe de recherche.
Ouais, moi, il y a Montel, il me tabasse tous les soirs.
Ouais, toi, est-ce que t'arrives à contrôler, du coup
Non, en vrai, c'est chaud. Enfin, oui, moi, oui, mais ça dépend. Genre, tu vois, le truc qui me dérange, c'est que par exemple, tu vois, moi je suis un gamer, tu le sais, et par exemple, entre deux matchs de Rocket League, bah, je suis là, je me sens obligé de rallumer mon tel pour 30 secondes, tu vois, pour rien en fait.
Quand c'est la pub un peu.
Ben, quand j'ai fini mon match et qu'il y en a un autre qui se lance, tu vois, en attendant, il y a 30 secondes de chargement, allez, je vais sur Insta, je regarde deux trucs, et au final ça se relance, tu vois, genre, pour ça. Sinon, sinon ça va.
C'est vrai que le fait d'attendre, c'est compliqué maintenant.
Ouais.
Moi, je m'en rends compte.
On a plus le luxe de s'ennuyer.
Ouais,
en
ouais.
fait.
C'est impressionnant. Et moi, je m'en rends compte sur mon jeu de simulation qui est très très lent. Avant, quand j'étais petit, j'attendais comme un gros PNJ devant du coup, mon jeu. Mmh. Maintenant, j'ai le réflexe du coup d'aller
de
sur
prendre
Insta.
Le téléphone.
Ouais. Ouais. Et toi, équipe de recherche, voilà. Est-ce que toi, t'es victime du coup de l'addiction du téléphone?
Ah ouais, non mais grave. Mais c'est horrible. Hein. Vraiment, j'ai honte. C'est des fois, je regarde un film. Et j'ai envie d'aller regarder genre mes réels et tout.
Ah
bon,
oui,
déjà,
oui,
j'ai supprimé TikTok
aussi.
Parce que TikTok, c'était l'enfer. Genre, vraiment, j'étais addict.
Ça, c'est un aspirateur. Ouais.
Mais je regarde maintenant les réels. Mais des fois, je regarde un film et j'y vais. Et je sais pas pourquoi.
Ah, ça, pendant un film, ça me rendrait fou, ça. Ça, il y a mon équipe de recherche à moi qui le fait. Ça me rend fou. Elle entend, j'espère. Hein.
Non, mais je le fais pas quand je suis avec quelqu'un, mais quand je suis toute seule. Quand je regarde un film, eh ben, je suis obligée. Enfin, je sais pas.
Ouais, moi, ça m'arrive aussi des fois. Là, en ce moment, je suis en train de regarder The Walking Dead. Bah, des fois, il y a des moments où c'est un peu. Ouais, trop, trop bien. Saison 10, là, je suis à la fin. Mais là, tu vois, il y a des fois, c'est un peu long. Bon, bah, je suis sur mon téléphone.
Mais voilà, mais c'est par moment, parce que quand c'est.
Oui, quand c'est intéressant.
Oui, voilà,
ah,
c'est
non,
ça.
Non, là, quand Negan, il défonce Glenn, là, je regarde à fond. Là.
Enfin, c'est ouais, en fait, dans les périodes où on s'ennuie, on a besoin de dopamine, c'est un peu
ouais,
ça.
Ouais.
Ok. Voilà. Trop bien. Je le note dans ma recherche.
Très bien. J'espère que tu nous feras un résumé.
Je vous ferai un débrief.
Voilà.
Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, le grand piège, c'est les notifications. En gros, c'est soit les pastilles rouges ou les vibrations du coup bah, qui vous attirent. En fait, mon conseil, il est radical, c'est de désactiver toutes les notifications, à l'exception des SMS, des appels et des applications les plus importantes pour vous. Et tout le reste, Instagram, TikTok, les applis d'actu, on coupe tout. Ce sont des notifications qui sont conçues pour attirer votre regard et vous aspirent en fait dans cette boucle.
Mais par exemple, moi j'ai un réflexe, je ne sais pas si ça vous le fait aussi, mais en mode, des fois j'allume mon tel pour voir si j'ai une notif. Et genre je fais rien. Et ça, je le fais très souvent, genre juste pour voir si j'ai une notif.
Okay.
Et tu vois, par exemple, si je reçois un message... Je peux pas attendre, genre je suis obligé d'y répondre très vite quoi, parce que sinon je sais pas, ça m'embête de laisser quelqu'un en vue entre guillemets, enfin, ou de pas répondre trop longtemps, alors qu'il y en a ils répondent pas pendant une semaine, mais mais genre non, moi genre dès qu'il y a un message je dois répondre dans la minute quoi.
Ok, mais moi du coup moi je suis l'exemple de, j'ai pas de notif en fait, mais je t'ai déjà expliqué en plus, moi j'ai pas de notif sur Insta et tout, donc je suis obligé d'aller sur Instagram pour voir si toi dans notre groupe La Revue Tech, si tu m'envoies un message, donc c'est ma volonté, j'ai envie de voir le message, mais du coup c'est pas Instagram qui me dit hey, oh Ryan, il y a un message, le voir. C'est, est-ce que il y a, et du coup toi tu le sais très bien, s'il y a un truc urgent tu m'envoies un SMS et puis je réponds. Voilà. Non, c'est bon, équipe de recherche. Non, t'avais peut-être un truc à rajouter. Non, je sais pas.
Non, c'est bon.
Non, c'est bon. Elle est toute timide, elle fait pas beaucoup de radio. Équipe de recherche, ils sont dans l'ombre et tout.
Ah ouais, bah surtout qu'ils sont allés dans l'espace récemment. Donc
c'est ça,
pour être tranquille.
La
un
parole
peu.
Et tout, ils sont encore en train de parler aux martiens.
Ouais. Encore un peu fatigué.
Ouais, elle fait tomber son crayon par terre parce qu'elle croit qu'il y a encore de la gravité. Non, mais.
elle est pas mal celle-là. Donc, comme je vous ai dit, si vous avez peur de rater une conversation importante, donc que vos proches s'inquiètent, c'est très simple. Prévenez vos amis et votre famille et dites-leur, en ce moment, je réduis les réseaux. Si c'est urgent ou important, vous m'appelez ou vous m'envoyez des bêtes SMS. Vous allez voir que 95% de ce qu'on pense être urgent ne l'est pas du tout. Et cela trie naturellement vos interactions. Alors, il y a aussi un hack psychologique, c'est l'écran en noir et blanc. C'est une astuce qui est très puissante, qui peut marcher sur certaines personnes, c'est comme l'hypnose, j'arrive toujours pas à le dire. Les applications utilisent des couleurs hyper vives pour exciter notre cerveau, comme des machines à sous au casino ou, comme je le dis souvent, des bonbons. Si vous enlevez la couleur, le téléphone devient tout de suite beaucoup moins attractif. Voilà.
C'est vrai.
Vous avez déjà testé cette option ou pas du tout, vous ?
J'ai jamais essayé, mais en vrai, je pense que le fait que t'en reparles, je pense que je vais le mettre en place du moins pour le soir, en mode genre à partir de 20h. Noir et blanc, tu vois.
Ouais,
genre,
c'est ce que je faisais sur mon Samsung, moi.
Mais
en noir et blanc, c'est trop bien. Ah ouais, c'est trop bien.
Parce que en vrai, ça peut être. Genre, moi, je sais que le soir, des fois. Ah, attends, je dois faire mon attaque Clash of Clans. C'est vrai que si c'est en noir et blanc, je vais pas y arriver, quoi.
Ah oui. Ah oui, si après, t'as des trucs.
Ouais, ouais.
Mais tiens, je vais te dire comment tu vas faire pour le mettre. C'est sur Android, il faut aller dans Paramètres, Bien-être numérique et contrôle parental, mode couché. Et vous pouvez y activer les nuances de gris pour que l'écran passe en noir et blanc automatiquement le soir. Pour iOS, il faut aller dans Réglages, Accessibilité, Affichage et Taille du texte, Filtre de couleur, et activer les touches, les filtres et cocher Nuances de gris. Petit bonus, vous pouvez configurer un triple clic sur le bouton de verrouillage pour l'activer en un instant.
Oh, c'est pas mal ça.
Ben moi, je vais te montrer en direct, Maxime.
C'est vrai que c'est bien. Attends, gros, je vais le faire parce que...
Là, du coup, je suis dans un mode de concentration. Mais en gros, tu vois, là, j'ai mon écran d'accueil avec toutes mes applications. Là, je vais appuyer 3 fois sur mon bouton où j'allume mon téléphone. 3 fois doucement, 1, 2, 3. Et là, ça part en noir et blanc.
Quoi.
Et du coup, il y a nous deux en plus, là-bas. Sur les photos, en souvenir. Donc voilà, c'est. Il y a des fois, les gens, ça marche, des fois, ça marche pas du tout.
Ça, c'est que sur Apple, ça, c'est pas sur.
Sur Android, ça marche.
Si, aussi.
Mais okay, le soir, ça marche. Moi, je le faisais le soir.
Oh non, mais avec les appuyer 3 fois sur on-off, tu sais pas.
Ah oui, non, moi,
je regarde.
Ouais. Moi, j'ai activé le mode sommeil et du coup, ça me l'active.
Je demanderai à Gemini.
Et oui, il est là pour ça. Une autre astuce dont on ne parle jamais, c'est de ralentir le déverrouillage. Aujourd'hui, Face ID et les capteurs d'empreintes sont trop rapides et on ouvre notre téléphone avant même de savoir pourquoi, comme tu l'as dit, Maxime. Mon conseil, c'est de désactiver cette fonction de reconnaissance faciale biométrique le week-end et forcer à vous taper un vrai mot de passe long avec des chiffres et des lettres, pas l'émission, l'équipe de recherche. Et donc, le fait d'avoir galéré pendant 5 secondes à taper votre code va cesser automatiquement le mécanisme de regarder le téléphone et en fait, de ne pas savoir pourquoi on est là.
Ouais.
Vous allez voir que vraiment, c'est bizarre.
Ouais. Ah bah là, c'est sûr que...
Parce qu'il y a des applis pour ça qui existent. Quand tu vas sur Insta, ça te met un code ou ça te met un minuteur en mode est-ce que t'es sûr de vouloir vraiment venir ? Mais là, rien. T'as pas installé d'appli, tu mets un mot de passe avec des points d'exclamation, enfin un truc bien dur et tout. Et là, tu vas voir que tu vas être moins sur le téléphone.
Ouais, c'est clair.
Bon, après, là, vraiment, je vous donne des astuces de l'extrême. Hein.
C'est vraiment de l'extrême. Hein.
Moi, perso, je sais que je vais pas le faire.
Non, moi non plus.
Je l'ai fait pendant longtemps. C'est cacher ces icônes. En fait, l'écran d'accueil de votre téléphone, c'est une vitrine de magasin. Si l'icône Instagram est juste là sous vos yeux, vous allez cliquer. Et l'astuce, en fait, consiste à supprimer toutes les icônes des réseaux sociaux de vos écrans d'accueil et laisser uniquement dans votre bibliothèque. En gros, vous supprimez pas l'application, mais vous supprimez l'icône. Et en fait, pour la
rechercher.
Vous allez
rechercher à chaque fois.
Vous allez dans recherche.
Slide vers le haut et c'est rechercher, ça. Quoi.
Donc, vous pouvez soit par l'outil recherche ou dans le tiroir d'appli sur Android. En fait, pour ouvrir vos réseaux, comme je dis, vous serez obligé d'utiliser la barre de recherche et de taper manuellement le nom. Et cette action volontaire élimine 80% des ouvertures accidentelles par ennui, en fait. Parce que des fois, t'allumes, du coup, le fameux exemple, Maxime, t'allumes ton téléphone, tu sais pas pourquoi tu es là. Des fois, t'as même tout ton téléphone, tu vas sur Instagram, tu sais pas pourquoi tu y es. Mais là, au moins, t'es obligé de faire plusieurs actions et plusieurs actions te limitent le truc. Voilà. Toujours pas un truc qui wipe, là. C'est le noir et blanc, toi.
Ah ouais, le noir et blanc, moi, je pense que le noir et blanc, je vais le mettre le soir. Mais...
Pas mal. Il y a aussi le temps d'écran. Si la volonté ne suffit pas, il faut laisser l'interface poser des barrières pour vous. Vous pouvez configurer des limites de temps quotidiennes pour vos applications les plus addictives. Sur l'iPhone, ça s'appelle temps d'écran. Dans les réglages, et sur Android, c'est le bien-être numérique. Vous pouvez vous dire, je m'accorde 30 minutes de réseau par jour. Une fois le temps écoulé, l'application se bloque. Alors oui, on peut demander un délai supplémentaire, mais cette petite friction visuelle vous force à prendre conscience du temps que vous perdiez.
Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que je me rends compte, là, tu vois, je vais dans mon bien-être numérique et carrément, il me met une pastille, genre en mode besoin d'un objectif de temps d'écran, en mode pour que je définisse un objectif. Donc c'est bien, tu vois, genre c'est prévu, tu vois, c'est dans les paramètres.
Trop bien.
Donc je pense que ça peut vous aider aussi si jamais. Et ouais, on peut définir un minuteur par application et tout.
Ok.
Et un objectif de temps d'écran, c'est vrai que c'est pas mal.
Trop bien. Et il y a souvent une habitude qu'on a, c'est de poser son téléphone à côté de sa table de lit. Alors, on le fait tous pour mettre notre réveil et l'avoir sous la main. Mais c'est la meilleure façon, du coup, d'avoir une tentation d'avoir à utiliser son téléphone avant de se coucher. Et c'est pas bon, du coup, parce que la lumière bleue, on vous fait déjà le truc. Alors, moi, perso, je me réveille avec mon téléphone. Voilà, donc, je vous dis, il y a vraiment le contraire de ce qu'il ne faut pas faire. Mais mon astuce, en fait, c'est j'ai un bouton action sur mon iPhone. Et en fait, ça met le mode sommeil, donc qui change de fond d'écran, qui met vraiment les applications, les 5 applications cruciales comme l'horloge, l'alarme, le calendrier et la météo pour comment je m'habille demain. Et comme ça, je suis vraiment déconnecté. Okay. Et puis,
Ah, c'est vrai que ça, c'est à faire. Et même, j'ai même envie de dire que les personnes qui ont du mal à se lever, j'ai vu un truc. Genre, bah, moi, j'ai acheté un réveil, tu sais, qui simule l'aube le matin et tout.
Trop bien.
Enfin, c'est mon équipe de recherche qui m'a offert ça.
L'équipe de recherche, c'est fort. Hein.
Ouais, de ouf. Et, mais j'ai quand même mon tel à côté de moi quand je me couche le soir. Mais ce qui peut être intéressant pour des personnes qui utilisent leur tel pour se réveiller et qui ont du mal à se réveiller, c'est qu'effectivement, le soir, vous le posez à l'autre bout de la pièce, en mode, je sais pas, vous avez une prise de l'autre côté, vous le posez sur la fenêtre en face, j'en sais rien. Et du coup, bah, pour éteindre le réveil, vous êtes obligé de vous lever pour l'éteindre. Et bah, du coup, si t'as du mal à te lever, que tu mets 40 réveils, c'est nul. Et ben bah, au moins, tu te lèves du premier coup parce que tu dis, oh, fais chier, c'est la fois, bah, je dois me lever, et puis au moins, t'es levé, quoi. Ouais.
Il suffit de le faire avec mon téléphone qui était dans le salon. Et du coup, je fais, oh non, flemme de me lever. Gros chômeur, quoi. Oh là là, mais il y a de la pluie ou quoi, Maxime, là ? On écoute, Rain de Fisher sur
allez,
Graffiti.
Allez, c'est parti. Pas de pleuvoir là, ça c'est le bruit de la pluie ça qu'on entend, ça je pense.
On vient d'écouter Rain de Fisher sur Graffiti.
19h, 20h30, c'est la revue tech sur Graffiti.
Ah. Et la voix off, elle est dans le studio. Hein. Eh, tu peux nous faire le jingle c'est,
on est sur
la
revue tech.
C'est la revue tech sur Graffiti.
Je sais pas si vous avez reconnu du coup. Voilà.
Donc, si.
Bah tiens, la voix off, on essaye, voilà,
d'intégrer l'équipe
de recherche. J'espère que la deuxième personne de l'équipe de recherche pourra venir la prochaine fois.
Ouais.
Donc on dit bienvenue à l'équipe de recherche 1.
Hein. Bienvenue à l'équipe de recherche.
Blues 1 et Blues 2, c'est bien.
Ah, génial.
Donc, bah tiens, bah, je t'en prie, tu vas lancer Maxime. Qu'est-ce qu'il veut nous parler, Maxime?
Oui, ouais. Alors, Maxime, tu vas nous parler de l'IA qui décode les animaux, le langage des animaux?
Et oui, tout à fait, l'équipe d'Archet.
J'adore ce concept.
C'est génial.
J'adore ce concept.
Je vous propose de laisser un peu de côté nos smartphones, tout ça. On en a parlé, c'est bon.
On va
partir un petit peu. On va utiliser, la technologie pour réaliser l'un des plus grands vieux rêves de l'humanité. Un rêve qu'on a tous eu enfant en regardant un dessin animé Disney ou en lisant un livre de contes parlé avec les animaux. Alors, présenté comme ça, ça fait un peu utopique, et pourtant ce que je vous annonce aujourd'hui, c'est la science de la vraie science. Aux quatre coins de la planète, des biologistes, des ingénieurs et des linguistes sont en train d'utiliser la puissance maximale de l'IA pour une discipline fascinante qui s'appelle la bioacoustique.
Okay.
Leur objectif, décoder, traduire et peut-être un jour répondre même aux animaux. Et vous allez voir que ce qu'ils découvrent est en train vraiment de bousculer tout ce qu'on pensait savoir sur le vivant. D'abord, comment on s'y prend? Parce qu'on ne peut pas juste tendre un micro à une baleine et lui demander comment s'est passée sa journée, quoi. Alors, qu'est-ce que tu as mangé comme plancton aujourd'hui? Voilà, ça marche pas comme ça.
Toujours une erreur sur la table, Maxime.
Ouais, ça marche pas comme ça. Pendant des décennies, les scientifiques ont enregistré les animaux, mais ils le faisaient à l'oreille humaine. Donc le problème, c'est que notre oreille est très limitée. Hein. On passe à côté des infrasons des éléphants ou des ultrasons des chauves-souris. Et surtout, analyser des milliers d'heures de cris, de sifflements, de grognements à l'échelle d'une vie humaine, c'est juste impossible. Et c'est là que l'IA change la donne. Vous vous souvenez comment fonctionnent des IA comme ChatGPT? On leur donne à manger des milliards de textes humains. L'IA repère les structures de phrases, des statistiques, et elle finit par comprendre le sens des mots. Et bien là, les scientifiques font exactement la même chose, mais avec des sons de la nature. En fait, ils déploient des milliers de micros autonomes dans les forêts, sous les océans, dans les savanes, et ils enregistrent tout H24. Et ils balancent tout ça, tous ces sons, ils sont dans un algorithme et tout, et ils balancent tout ça à l'IA. Et elle cherche même pas des mots humains, elle cherche des motifs, des répétitions, des variations de fréquence, des choses comme ça, des trucs que l'humain en fait est incapable de détecter et qui prouverait qu'il y a un langage, quoi, tu vois. L'exemple le plus spectaculaire en ce moment, c'est le projet SETI pour...
Non, je l'ai plus en tête. Bugué. C'est quoi le nom là que Google et Nvidia ils ont...
Spark.
C'est pas Spark.
C'est le projet Spark.
Ça aurait été très drôle.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai,
j'aime
c'est
bien les running gag.
C'est le projet en fait SETI pour Spark Translation Initiative. Non, c'est faux. C'est CETESIEN Translation Initiative. En fait, c'est un consortium mondial de chercheurs qui s'est donné pour mission de traduire le langage des cachalots. Les cachalots, ce sont ces immenses mammifères marins.
Mais non, cachalot m'a fait rire.
Des cachalots. Voilà. Ce sont des gros mammifères marins qui possèdent le plus gros cerveau du règne animal. Donc Sony, tu te calmes parce que
il me détrône, vraiment.
Et pour communiquer dans le noir complet des abysses, ils utilisent en fait des cliquetis qu'on appelle des codas. Et non pas des cudacors.
Il y a plein de trucs en tech, des codas, bref.
Allez, les techos. À l'oreille en tout cas. Ça ressemble juste à un bruit de machine à écrire. Genre clic clic clic, ils font ça les cachalots, voilà.
Ok.
Mais en faisant analyser ces cliquetis par l'IA, du coup sur des années d'enregistrement, les chercheurs ils ont découvert un truc de fou. Ces cliquetis ont une structure presque grammaticale, genre vraiment ils accordent les clics, genre ils font, tu vois.
Non, ça c'est une bière qui est ouverte. Hein.
Vraiment. Et c'est un véritable alphabet phonétique, hein, vraiment. Les cachalots ne font pas que chanter pour passer le temps. Ils se racontent des choses, ils se saluent, ils s'appellent par leur prénom. Parce que oui, l'IA a confirmé que chaque individu cachalot a un sifflement unique qui correspond à son identité.
Ok.
En mode l'équipe de recherche, bonjour. Tu vois. Sony, bonjour.
Allez, voilà. On fera l'émission 1h30 comme ça.
Allez,
jeudi prochain.
C'est parti. Non, mais c'est impressionnant quand même de se dire que vraiment chaque. Enfin, ils ont leur langage, quoi. C'est un truc de fou. Des scientifiques du projet SETI, ils espèrent que d'ici quelques années, l'IA sera tellement entraînée qu'on pourra immerger un haut-parleur et envoyer un message logique à une baleine. Reste à savoir ce qu'on va leur dire et si elles auront envie de nous répondre, tu vois. Parce que si on quitte l'océan pour aller dans les grottes, il y a aussi une autre étude fascinante qui a été menée sur les chauves-souris. À l'oreille humaine, une colonie de chauves-souris, c'est juste un bruit strident, un brouhaha permanent et agaçant. Une équipe de chercheurs à l'université de Tel Aviv a enregistré des milliers de ces cris pendant des mois en filmant les animaux. En même temps, ils ont donné des vidéos et des sons à l'IA en lui disant « Trouve une logique, hein, vas-y, débrouille-toi, trouve un sens à ce qu'ils disent. »
C'est trop marrant quand ils font travailler l'IA.
Bah ouais. Et l'IA a trouvé. Alors, devine ce qu'elle a trouvé. Franchement, c'est très drôle. Elle a réussi à traduire une grande partie des conversations et des chauves-souris. Et devinez quoi ? Elles passent leur temps à se disputer. Voilà.
Okay.
En fait, l'IA a classé les cris en 4 catégories de conflits bien précises. Les disputes pour la nourriture, genre « Rends-moi ma banane !» Voilà. Okay. Les disputes pour la place sur la branche, genre « Pousse-toi de là, tu prends trop de place, vas-y. » Et les disputes amoureuses des mâles trop insistants et les mamans chauves-souris qui grondent leurs petits. Vraiment, ils passent leur temps à se disputer, les chauves-souris. Donc, très drôle. Ce brouhaha qu'on pensait être un réflexe primitif est en réalité une colocation géante avec des règles sociales ultra précises. L'IA nous permet de lever le voile sur une vie sociale insoupçonnée. Donc, c'est fou, t'imagines, genre dans quelques temps, ça se trouve, chaque animal, on devinera en fait comment ils vivent et tout, comment ils communiquent.
C'est-à-dire que la scribilie tant à fruits, ça existe.
Allez, ça y est, l'outil est parti dans un délire. Mais en tout cas, la bioacoustique avec l'IA, c'est pas que de la recherche fondamentale pour faire des documentaires animaliers. Ça a vraiment des applications concrètes, notamment pour le bien-être animal et l'agriculture. Vraiment, il y a des algorithmes qui ont été créés et tout par des chercheurs. Donc c'est vraiment un truc de fou. Et ça avance à une vitesse folle avec l'IA. Donc c'est vraiment ça qui est incroyable. Et pour aller encore plus loin, il y a des scientifiques qui ont découvert que même les plantes émettent des sons. Quand un plant de tomate ou de tabac manque d'eau ou qu'on coupe sa tige, par exemple...
Aïe.
Vraiment, j'allais le faire. Ah, vraiment. Et ben en fait, il émet des petits claquements ultrasoniques totalement inaudibles pour nous. Vraiment, on n'entend rien. Et l'IA essaie de les reconnaître. Demain, dans les serres, ce sont les plantes elles-mêmes qui diront à l'ordinateur central « Hey, j'ai soif, vas-y, donne-moi à boire, t'imagines ?»
Non, mais tout ça, c'est réel.
C'est réel.
Je veux voir les
On
n'est
pas dans Avatar là. C'est un vrai truc.
C'est incroyable.
C'est un vrai truc.
Qu'est-ce que tu veux dire, Kinder Recherche ?
Non, mais j'étais en train de me demander la même chose. Est-ce que c'est vrai ? Ça paraît tellement.
Ouais, ça paraît tellement ouf. J'ai vraiment
genre, on attend ça depuis toujours. Ouais. On s'est toujours demandé ça. Quoi.
J'ai l'impression qu'on regarde 3000 fois les trucs, toi.
Ouais, j'ai l'impression qu'on est dans Avatar, genre.
Ouais, mais ouais.
C'est un truc de fou. Genre, t'imagines en fait les plantes et. Enfin, les
trucs. Après, c'est vivant une plante. Hein.
Oui, bah oui.
Donc c'est pas choquant.
C'est incroyable.
Ouais, c'est vraiment un truc de fou. Donc t'imagines, ça se trouve, dans quelques années. Voilà. Et par contre, du coup. Comme à chaque fois qu'on parle d'une super technologie, il y a un envers du décor. Et là, il est éthique, vraiment. Il y a un mec énorme, quand même, énorme. Avant que je revienne sur ce mec, on a l'impression, en fait, de parler à des extraterrestres, presque. Parce que c'est des animaux.
Oui, oui.
Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Mais tu vois, c'est comme si c'était un autre peuple, en fait. Genre, c'est pas des humains.
C'est comme les martiens.
Voilà, t'imagines. En fait, c'est un autre langage. Voilà. Je vais vous dire le mais maintenant, parce que s'il y a un mais, si on arrive à décoder le langage des animaux, ça veut dire qu'on va être capable de reproduire à la perfection grâce à des IA génératives de sons. Imaginez un instant que ces outils tombent entre les mains de braconniers, par exemple. Il leur suffirait de générer un cri de détresse pour un éléphant, pour attirer la mère et le troupeau dans un piège, ou reproduire le chant d'amour d'un oiseau rare pour le capturer et le revendre, quoi. Enfin, vraiment, il y a de quoi faire. Donc voilà, c'est à double tranchant aussi. Il y a aussi le risque de perturber les écosystèmes. Si l'humain commence à parler dans l'océan avec des syntaxes de baleines sans en comprendre les codes sociaux, on pourrait créer une panique totale chez les animaux. Les scientifiques demandent donc déjà à une réglementation très stricte. La bioacoustique doit servir seulement à écouter et à protéger et pas à manipuler. Parce que ouais, t'imagines, t'arrives, tu veux dire un truc tout bête à la baleine ou un truc, et en fait elle comprend rien, elle se dit mais qu'est-ce qu'il me raconte là, en fait il est en train de m'insulter, tu vois, genre imagine, en fait elle le prend complètement mal et ça peut très mal tourner, tu vois, parce que c'est s'il y a une société derrière, c'est pas que parler, il y a aussi tu vois, il y a toute une réflexion et tout.
Ouais, si tu t'incrustes dans le truc,
ouais, vraiment, bah, c'est comme quand dans Avatar, je reprends l'exemple, mais tu t'incrustes chez les Navi et en fait il y a des codes sociaux qui sont tellement différents que les humains, donc tu vois, bah en fait tu accroches une avis, pas comme ça, quoi. Vraiment, il y a plein de codes. Voilà. Donc là, c'est pareil. En résumé, du coup, l'intelligence artificielle est en train de nous offrir une magnifique leçon d'humilité. Et pendant des siècles, l'être humain s'est cru au sommet de la pyramide en pensant qu'il était le seul sur Terre à posséder un langage complexe, une culture et des structures sociales. Aujourd'hui, l'IA nous montre qu'on était juste sourds, en fait, vraiment. La forêt, les océans, le ciel, tout ça déborde de conversations, d'histoires, de partages d'informations qu'on commence à peine à entrevoir. Le jour où l'on comprendra le dictionnaire complet de la nature, on ne regardera plus jamais une forêt de la même manière. Donc ça, c'est vraiment génial.
Incroyable. Bah, merci Maxime pour merci à l'équipe de recherche.
Merci.
Wow, bah, c'est incroyable.
C'est un truc de fou.
Des trucs de fou.
Gros slack.
Eh bien, souvenez d'arriver, bienvenue à vous, mais l'émission est déjà terminée,
ouais, c'est
la revue tech, voilà. Vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast, Spotify ou graffitiradio.fr. Et Maxime, sur les réseaux?
Alors, on peut nous retrouver sur Instagram. Vous tapez la revue tech ou alors avec le arrobas la-revue-tech pour continuer le débat avec nous ou réagir à l'émission.
Sinon, sortez vos agendas. Le dimanche 21 juin, rendez-vous place Jacques Chirac dans le quartier des Halles à La Roche-sur-Yon.
C'est pour faire la fête de la musique et les 40 ans de Graffiti Radio. On vous prépare une belle soirée en plein air. Ça non-stop.
Et oui, au programme des concerts avec FMR Rock et les bruits de l'autre, en plateau radio et des DJ sets tout au long de la soirée.
Et sur place, vous pourrez aussi profiter du bar tenu par des bénévoles de la radio, des nombreux stands de restauration du quartier et de la boutique Graffiti avec les t-shirts et les goodies de la radio, bien évidemment.
Trop bien, ils vont avoir le même t-shirt que nous.
Ouais, vraiment incroyable, vous pourrez vous la péter comme nous, quoi.
Sur Paris.
Voilà, exactement.
Alors venez nombreux célébrer la musique et souffler les 40 ans de votre radio associative. Et c'est quand, Maxime?
Eh ben, c'est le 21 juin, je le répète, place Jacques Chirac. On compte sur vous, en tout cas, venez nombreux, ça s'annonce top.
Nickel, nous on vous souhaite de bonnes soirées sur les ondes de Graffiti Radio et à bientôt.
Bonne soirée, à bientôt tout le monde.